Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Là, ça devrait être bon. Là, on parle.
Là, on parle. Now we're talking.
Ah,
now we're
talking. On est là. C'est parti, la team.
Let's go.
Ça se passe ou quoi?
Ça se passe tranquillement, monsieur. UFC semaine. Austin de la semaine, de ce week-end.
Ah, on attaque Manu. Direct. Let's go. On perd pas de temps. C'est parti. Alors.
Non, mais moi, j'avais une question à te poser.
Vas-y.
Ah, j'avais une question à te poser. Donc là, c'est la 17e fois de suite que l'UFC fait sold out quand ils accueillent du public. 1,7 million de dollars en billetterie, record battu pour un Fight Night aux États-Unis. Comment t'expliques ça, Manu?
Alors, une des principales raisons, c'est la pandémie qui a empêché tout le monde de regarder du sport en live. Et il faut savoir que l'UFC, ça a été vraiment le premier sport à faire ce qu'il fallait pour avoir des sports en live. Du coup, tous les gens qui étaient en manque de live, tous les gens qui étaient en manque de sport aussi à la télé, le fait qu'il n'y ait que l'UFC qui puisse faire ça, ça fait exploser les chiffres de l'UFC, exploser la cote du MMA dans le monde et du coup, beaucoup plus de monde qui s'y intéresse. Il faut aussi savoir que plus ça va avec les années, plus l'UFC devient mainstream, ce qui veut dire que maintenant, c'est plus que les fans hardcore de MMA qui vont aux events. C'est aussi des gens qui veulent passer une soirée, qui sont curieux, qui veulent emmener sortir leur meuf, sortir entre potes, s'éclater, faire un truc qui change. Et t'as pas besoin, c'est un peu comme aller au match de basket, au match de baseball, au match de foot. T'as plus besoin d'être un ouf de foot. C'est aussi pour l'ambiance, c'est aussi pour la sortie que t'y vas. Et ça, c'est exceptionnel.
Ouais. Voilà. Maintenant, on a la réponse. Mais ouais, non, moi, j'étais vraiment étonné parce que tu vois, mine de rien, la cardia était très sympa en termes de finish et tout. Et d'ailleurs, je rejoins Ariel Helwani, tu vois, je sais pas ce que t'en penses aussi, Manu, c'est que qui a expliqué, donc Ariel Helwani, le plus grand journaliste de sport de MMA au monde, oui. Qui expliquait qu'en gros, pour lui, c'est pas du tout un hasard si l'UFC Columbus, UFC Londres et la UFC Austin, bah, il y a eu que des finishes et les cartes étaient dingues parce bien qu'en sûr. Fait, il y a du public et que les combattants sont vraiment galvanisés.
Super
par
motivés.
Ça.
Ouais. Mais il y a un autre truc avec une carte comme on a eu hier où. Beaucoup diront, bon, c'est pas non plus la meilleure carte de l'année. Pour moi, c'est le même effet que le sport universitaire aux États-Unis. Le sport universitaire, c'est énorme aux États-Unis. On ne se rend pas compte parce qu'en France, ça n'existe pas vraiment à la télé, les sports universitaires. Le basket, le baseball, le football américain, c'est aussi gros en sport universitaire que la NBA, que la NFL, tout ça. Et c'est tous les mecs avant d'arriver dans la NBA, tous les mecs avant d'arriver dans la NFL qui ont quelque chose à prouver et qui doivent se défoncer pour être sûrs d'arriver dans la grosse ligue. Et bien, les cartes comme ça, pour moi, ça a cet effet-là où les mecs se disent « c'est là que je dois briller, c'est pas la meilleure carte, c'est pas la carte où il y aura plus Dieu, mais… » Si j'explose tout, si je me donne à 2000%, si je fais un finish, peut-être que la prochaine, je serai sur la main card et peut-être que la prochaine, je serai sur un pay-per-view event.
Bah, c'est vrai. D'autant plus que c'est vrai que là, il y a vraiment ce côté, comme tu n'as pas une tête d'affiche qui, même si elle fait un combat pété, bah, on va parler de la tête d'affiche. Bah, c'est vrai que là, tu mets un KO comme, je sais pas, Joaquin Buckley contre Cassian Ganaï, bah, c'est clair que là, tu es l'attraction de la soirée qui va buzzer pour cette soirée de sport de combat, parce que là, typiquement, le combat entre Qatar et Emmett, c'est un combat pour les connaisseurs et c'était un super combat, mais personne du mainstream ne va vraiment parler de ce combat-là, tandis que, bah, par exemple, le coup de coude retourné du gars dont j'ai oublié le nom, le Brésilien, bah, lui, Ricardo Ramos, bah, clairement, ça y est, il a fait le buzz et il a fait le tour du monde.
Ça, c'est viral, comme le KO de Buckley à l'époque.
Ouais. Grave. Et puis même Buckley, il m'a vraiment impressionné.
Ouais.
toujours envie de l'appeler Jeff Buckley, c'est insupportable. Mais donc il s'appelle Joaquin Buckley et
j'avoue moi aussi.
Vas-y.
Moi aussi.
Bah, c'est même délire que Robert Whittaker qu'on a toujours envie d'appeler Forrest quoi. Mais ça reste. Hein, c'est... Ouais.
Alors que rien à voir, littéralement rien à voir. Mais le gars, ça devient vraiment un vrai combattant de MMA pour le coup.
Bah, et puis en plus, là, le gars en face était vraiment solide, quoi. Albert Dureff.
Je pensais qu'il allait se faire rouler dessus.
Moi aussi. Et pourtant, bah, il a vraiment. Bah, on pensait non seulement qu'il allait se faire rouler dessus, mais moi, je du coup, on a regardé le stream tous en live avec l'équipe d'ailleurs. Mais je pensais qu'il était tellement dynamique sur ses appuis, tellement de mouvements, tellement entreprenant, tellement volontaire, mais presque trop généreux dans ce qu'il faisait avec des coups de pierre tournés, des trucs. Moi, je pensais qu'il allait se cramer et que Duraev, qui était ultra économe, allait revenir, mais vraiment, tu sais, la machine, le Terminator. Et en fait, bah non, c'est le mec ne s'est jamais arrêté, Joaquin Buckley. Et franchement, ça, c'est une vraie victoire de rang hein, contre Duraev, solide.
Sûr. Il faut savoir, pour ceux qui n'ont pas suivi l'UFC d'hier, que ça, c'est à égalité pour le record de KO.
Ouais,
qui est de
en une seule carte.
8 KO sur la même carte. Il y a eu aussi des soumissions. Et même les combats qui sont allés à la fin ont été ouf. Donc, si vous ne l'avez pas vu, regardez en replay, c'est exceptionnel. Il y a eu aussi un autre truc exceptionnel, c'est que la carte a été tellement folle, c'est qu'ils ont donné 9 bonus. Donc, ils ont donné 9 fois 50K pour les performances de la soirée, ce qui, je ne sais pas, est sûrement un record à mon avis. Il faut savoir que d'habitude, ils en donnent 3. Ces derniers temps, ils commencent à en donner un petit peu plus.
Il y avait eu l'UFC London aussi où Dana White avait été particulièrement généreux.
Parce que ça avait été particulièrement exceptionnel en UFC. Et donc, si vous l'avez raté, chopez les replays parce que c'est énorme.
Ouais. Ouais, vraiment. En plus, ouais, c'est vraiment la bonne carte, même si vous êtes novice et débutant, parce qu'en vrai, c'est ce qu'on disait en début, mais. Si vous ne vous y connaissez pas, vous allez en prendre plein les yeux de toute façon et vous aurez de tout. C'est-à-dire que sur une carte comme celle qu'il y a eu cette nuit, t'as des gros KO qui font le buzz, t'as des combats comme Kutateladze contre Gouram, j'ai oublié le nom de l'adversaire, qui font des combats ultra techniques où là, bah, c'est aller à la décision, mais si tu commences le MMA, tu vois ce qui se fait de mieux, grosso modo, en termes de feinte, en termes de vitesse d'exécution, en termes de précision, en termes d'enchaînement, d'intelligence de jeu, ils sont allés dans tous les sens. La lutte, les transitions, etc. Et tu as des combats aussi comme Qatar Emmet, ultra stratégique, mais quand même vachement plaisant.
Bien sûr.
Et ouais, c'est vrai, tout au long de la carte, on a eu des KO. Franchement, pour un combat, pour un aspirant fan de MMA, c'est parfait de suivre les combats de cette carte-là.
On est d'accord. Le seul bémol de la soirée, à mon avis,
Oh Jesus.
C'est bien sûr l'annulation du combat Donald Cerrone contre Joe Lauzon. Qui avait déjà été annulé la dernière fois en rapport avec Donald Cerrone. Là, c'est Joe Lauzon qui se blesse juste avant. À la conférence de presse, après le combat, ils ont demandé à Dana s'il allait refaire ce combat. Il a dit non, je pense qu'on ne refera pas ce combat.
Ouais.
Dommage, parce qu'on voulait tous le voir. On voulait tous le voir, mais il a utilisé la comparaison de Khabib contre Tony en disant il y a des combats qui ne doivent pas arriver et du coup, on ne va pas forcer et ça n'arrivera pas. Malheureusement, j'étais super chaud parce que ces deux mecs pour qui c'est deux légendes du MMA et de l'UFC. C'est des mecs à tous les deux, je crois, qu'ils ont les deux records numéro 1 et 2 du max de bonus dans l'UFC. C'est exceptionnel, exceptionnel. Donald Cerrone qui arrive quand même en fin de carrière, mais qui a annoncé qu'il voulait arriver à 50 combats et après s'arrêter. Ça aurait été son 47e hier.
Ouais, ça, ouais, mais et il a pas dit aussi. J'ai cru comprendre que Donald Cerrone avait dit qu'il était plus très chaud pour faire des cuttings et que du coup c'est aussi pour ça qu'il n'était pas forcément chaud de refaire le combat contre Joe Lauzon.
Ouais. En fait, il voulait essayer de rebooker un autre combat au mois de juillet, pas forcément contre Joe Lauzon. Et il a dit que c'est trop proche, il veut pas faire un recut
pour un mois. Oui. Ok.
Donc.
Donc
on comprend. Il a aussi expliqué que son but dans le MMA actuellement, c'est plus du tout d'aller pour la ceinture, c'est pas du tout de combattre des petits jeunes qui arrivent et qui ont la patate. Lui, ce qui l'intéresse, c'est plus des combats de légendes comme lui et qui sont plutôt en fin de carrière, mais avec qui il pourrait y avoir des super combats, quoi.
Et je voudrais aussi placer un shout-out à Kevin Holland, parce que je suis biaisé, parce que je le surkiffe, mais il a fait un combat incroyable contre un vétéran Et vraiment un vrai vétéran. Je sais pas depuis combien de combats il est là, Team Means, mais toujours au plus haut niveau. C'est vraiment
exceptionnel.
toujours, ouais, voilà, genre top 15, top 20, 20, top 25, mais il est toujours là. Et franchement, déjà, premièrement, je kiffe ces combats-là où les deux se respectent de ouf. Et c'est
Pareil.
vrai que ben, ça a permis à Kevin Holland de vraiment montrer de quel bois il était fait, parce que là, on a vu les progrès qu'il avait fait en lutte. Il s'est relevé, même si Mince, c'est pas non plus un énorme lutteur, mais quand même, il a réussi à se relever, il a réussi à montrer un petit peu qu'il avait fait des progrès. Debout, il fait tellement mal, il est tellement affûté, Kevin Holland. Et vraiment, ça m'a fait plaisir de le voir. On voit que ça y est, enfin, c'est pas ça y est, parce
Bien
qu'il a toujours
sûr.
progressé, mais même dans les domaines dans lesquels c'était un peu chaud, il a vraiment commencé à progresser. Et juste, je finirai aussi là-dessus pour Kevin Holland, mais je sais pas si vous avez écouté sa conférence de presse d'après combat. Moi,
Bien
de toute
sûr.
façon, c'est un de mes peut-être top 3 des combattants
Bien
préférés
sûr.
actuels en MMA.
Wow.
Ouais, et en gros, du coup, bah, je voudrais juste, pour les gens qui ne connaissent pas Kevin Holland, vous faire, en gros, j'ai noté quelques petites quotes, en gros, qu'il a données en conférence de presse, parce qu'il faut savoir que c'est un combattant qui parle constamment dans la cage, en fait. Il est constamment en train de parler à son adversaire, de parler à l'arbitre. C'est sa manière de faire. C'est comme les frères Diaz, sauf que lui, c'est un peu plus fun. Et là, c'était vraiment génial, parce qu'il était contre Tim Means, qui a 10 ans de plus que lui. Il a 38 ans, et lui en a 29, Kevin Holland. Et en gros, Tim Means, lui, il est connu aussi pour, si tu veux parler avec lui et échanger, avoir une petite discussion en même temps que la bagarre se fait dans la cage, bah, il est plus que disponible. Et du coup, Kevin Holland, quand on lui demande, mais du coup, vous parliez de quoi? Il a dit trois petites anecdotes. La première, c'était, à un moment donné, il met un gros bras arrière à Tim Means. Et du coup, Kevin Holland lui fait, putain, t'es solide, hein? Et là, t'as Means, du coup, qui lui répond, I can do this all night. Donc le fameux truc de Captain America. Ouais. Et du coup, Kevin disait, eh ben là, j'ai commencé à penser à Captain America. Donc c'est, je le surkiffe tellement. Donc il a le temps, un, de discuter avec son adversaire, deux, de commencer à avoir des petits flashbacks de Captain America à Winter Soldier, je sais pas trop quoi, sur Netflix. Et en même temps, de dérouler la performance de sa vie pour l'instant en welterweight. Bon, il a fait que deux combats, mais quand même. La deuxième quote, c'était, à un moment donné, il a mis un oblique kick à la hanche de Tim Means. Et en gros, il lui dit, apparemment, il lui dit directement, bon, là, je l'ai mis à la hanche, mais t'inquiète, je viserai pas le genou, parce qu'on sait que c'est très, très dangereux si tu prends un oblique kick au genou. Et du coup, Tim lui a répondu, bon, bah, ok, si tu fais pas ça, alors moi non plus. Les mecs ont même le temps de faire des petites règles pendant le combat en mode gentleman's agreement. Et le dernier truc, c'est, ça, c'est, je kiffe trop, parce que c'est vraiment en mode le fiston et le vieux briscard. Et en gros, c'est Kevin Lee qui retouche à un moment donné solidement Tim Means. Et qui lui dit,
Tom
ah,
Holland,
là,
Kevin
je
Holland,
crois que je t'ai bien touché.
Kevin Holland.
Kevin Holland, pardon, ouais, qui touche bien Tim Means. Et il dit, ah, là, je t'ai bien touché, non? Et en gros, un petit peu comme un papa fier de son fiston, tu vois, t'as Tim qui lui répond, ça, c'était pas mal, fiston, c'était pas mal. Franchement, je le kiffe, Tim
C'est
Kevin Holland,
ouais.
mais c'est.
C'était un super combat, plein d'action.
Ouais.
On n'attendait pas la soumission venant de Kevin
Non.
Holland, même s'il en avait déjà fait une dans le passé dans l'UFC. Comme ils en parlent d'ailleurs dans la conférence de presse après le combat, les gens oublient qu'il est ceinture noire de jiu-jitsu. C'est pas non plus
Ouais.
un débutant, c'est pas comme s'il a pas un niveau de jiu-jitsu au sol. C'est juste que c'est pas ce qu'il préfère.
Ouais.
Et forcément, lui, on lui demande, tu préfères quoi, les soumissions? Et lui, tout de suite, avant qu'on lui demande, ou les KO, il dit KO, KO. Moi,
KO.
c'est les KO qui
Ouais.
m'intéressent. Ouais, le
Ouais.
mec est. J'avais emmené mes enfants à un UFC au Apex, et mon fils et ses meilleurs potes, et il était venu les voir. Il avait vu trois petits jeunes. Il a dit, hey, ça vous dérange pas si je fais un petit snap avec vous? Je dois faire la promo d'un truc. Je
Oh.
dois faire la promo d'un truc, et boum, voilà, tu vois, le mec, j'ai des photos de lui avec mon fils et ses potes. Vraiment, ça se voit en plus que le mec, il est bonne ambiance. Et
Ouais.
le truc qui est drôle avec le côté Captain America, c'est tous les événements qui lui arrivent
Mais
hors
oui.
MMA, où il lui
Il
arrive
a fait
plein de
un truc
trucs et il
vendredi, hein.
sauve les gens. Des
C'est du
bastons,
délire.
il a sorti des gens d'une voiture dans un accident. Le mec, il. Partout où il est, le mec. Mais en même temps, tu commences à dire, mais ça, parce que ça arrive à combien de personnes, tu vois, si ça t'arrive une fois dans ta vie, c'est déjà un truc de fou. Lui, c'est genre, toutes les 2 semaines, il lui arrive un truc et il
Mais c'est
agit.
pour ça. C'est pour ça, c'est dans une vidéo qu'on a fait récemment sur le sujet justement des combattants auxquels il arrive des trucs comme ça, des drames de la vie de tous les jours. Bah, j'avais cité Kevin Holland et en gros j'avais fait un peu la comparaison avec le rôle de Samuel Jackson dans Incassable, où en gros c'est un mec qui provoque des accidents justement pour essayer de, tu sais, de
Ouais.
tamiser, de voir quel est le super-héros qui survit à tout ça. Et Kevin Holland, c'est vrai que c'est pareil. Il a aussi désarmé un mec qui était probablement, donc qui avait un gun en main, qui avait tiré en l'air et qui était peut-être sur le point de faire une fusillade à Houston.
Dans un
Il
bar,
avait
ouais.
effectivement sorti, ouais, dans un bar, il avait effectivement sorti un mec de sa voiture qui était, même je crois que c'était un camion qui était
Ouais.
sorti sur le flanc et il disait c'est là où j'ai eu le plus peur de ma vie. Là, il vient effectivement d'arrêter un gars, un crackhead visiblement, qui était. Il avait volé je sais plus trop quoi dans un magasin, il s'était barré en courant. Et d'ailleurs, apparemment, ce qui est marrant, c'est que du coup, Kevin Holland disait j'ai commencé à le poursuivre et je lui ai quand même dit en tant que coup de semonce. Arrête-toi, si tu t'arrêtes ou au moins que tu lâches ce que tu viens de voler par terre, je te démonterai
Je
pas si
te
je t'attrape.
taperai pas, ouais. Ah, c'est
Il est
bizarre.
légendaire.
Ah, le
Ouais, et
mec,
c'est vrai que pour
c'est...
l'avoir rencontré aussi, c'est le mec le plus sympa du monde. Alors
Raconte
qu'il connaît
l'anecdote,
pas.
Rusty, raconte l'anecdote.
Non, mais
Allez, let's
c'est très.
go.
J'étais juste à l'UFC Apex et en gros, je m'entraînais au sac et il a été vraiment, mais enfin, en anglais, du coup, ils utilisent le terme honey dicking. Donc, en gros, tu sais, tu. Ils te régalent en fait. Ils te font du bien juste parce qu'ils savent que ça fait du bien à l'ego. Et juste alors que ça leur coûte rien, tu vois, mais ils te le font. Et bah pareil, je faisais du sac. Ils étaient en mode oh, damn, c'est joli ce que tu fais, machin, tu combats. Et du coup, bah après, en gros, t'es content. Toi, tu parles à Kevin Holland. Il te refait à jamais avec un petit ego boost. Et gratos, alors que vraiment, on ne se connaissait ni d'Ève ni d'Adam. C'était au-delà de ça, je le kiffais trop. Ça m'a juste confirmé que c'était un bon gars, mais au-delà d'un bon gars. Et en plus, comme c'est un combattant extraordinaire. Pour moi, voilà, j'attends juste 10-15 piges, mais je pense qu'il va finir quelque part, soit sur mon ordi, en sticker ou un truc comme ça, mais
Ah.
voilà, à jamais avec Kevin.
Oh. Ah ok, c'est annoncé, c'est annoncé. Mais par ailleurs, les gars, est-ce que vous pensez qu'il a vraiment un avenir durable chez les welterweight? Parce que bon, chez les middle, on s'est peut-être un petit peu enflammé rapidement aussi. Il n'a pas eu de chance dans le sens où il y a eu ce combat contre Derek Brunson, donc clairement on a vu les progrès qu'il avait à faire. Ensuite, il a affronté Marvin Vettori en short notice, enfin 2 semaines après à peine, avec donc difficile de progresser. Là en welter, est-ce que vous vous dites il y a vraiment quelque chose à faire pour lui, ou là on est plus en train de se dire ça va être un nom, ça va être un agitateur de la
Écoute,
catégorie, mais à aucun moment il peut avoir un run? Manu?
écoute, à la presse conférence après le combat, un journaliste demande à Dana White, qu'est-ce que tu penses s'il veut aller recombattre dans les middle? Dana White a juste dit, il fait ce qu'il veut. Il me
Ouais.
dit ce qu'il veut et je le laisserai faire. Il sait que là, il a un mec, quoi qu'il se passe, c'est une tête d'affiche, c'est un mec qui vend, qui gagne ou qui perde, c'est jamais chiant.
Ouais.
Il a fait un petit call-out, il aimerait bien recombattre contre
Blount Bronson.
Blount Bronson. Et voilà quoi, tu vois que le mec, il s'est pris deux roustes, qu'il s'est remis en question, qu'il a été faire le taf. Tu vois, ses takedown defense hier était on point. Il a fait ce qu'il fallait, même les fois où il s'est fait mettre au sol, il s'est quand même relevé assez rapidement. Je pense vraiment que c'est un mec qui devrait rester à 170, mais ici et là, s'il y a un petit combat intéressant pour lui à faire à 185, ça me plairait. Et honnêtement, je me plaindrais pas d'un Adesanya, même s'il n'est pas encore là, hein, mais dans le futur, un petit
Dans le futur, ouais.
Adesanya, merde,
Hollande.
Hollande,
Hollande.
ce
Ouais.
serait quelque chose de fun, juste pour le trash talk, juste pour le fun, parce que ces deux mecs qui ont quand même des similarités au niveau du caractère, quoi. Donc,
Ouais. C'est clair que ce
c'est des
serait.
showmen.
Moi, j'aimerais bien. Moi, j'aimerais bien. Juste pour la Fight Week, ce serait sympa.
Ah ouais. Ouais, vraiment, parce qu'en plus, ce serait fun. Parce que typiquement, là, Uriah Hall, par exemple, qui arrête pas de chauffer Darren Till, c'est bizarre, tu vois.
Ah oui, on est
Certes,
d'accord.
c'est un peu
Il y a besoin
ouais.
de traction.
Un peu
Ouais.
cringe, un peu machin, tandis que tu peux être sûr que Adesanya, tu sais, il se met un petit peu en termes de trash talk au niveau de son adversaire. On avait vu ça avec Paulo Costa, par exemple, avec Bronson aussi. Je pense que du coup, s'il est en mode fun, Kevin Holland, vraiment, ce sera marrant, bon enfant.
Bien
Et
sûr.
comme on sait qu'on sera pas déçu pendant le combat, franchement, ce sera vraiment
Bien
un bon
sûr.
moment, quoi. Un moment Nutella. Ouais.
Oui. Il y a un combat dont je voulais vraiment parler hier parce que le mec, je veux dire, Grégory Rodriguez, donc Robocop contre Julian Marquez. Écoute, Julian Marquez, c'est un client quand même. Et ce que Rodriguez lui a fait, c'était
Ouais.
mal poli, mais un level, mon frère. Il l'a juste. Et ce qui est fou, c'est que Rodriguez, il est plusieurs fois champion du monde de jiu-jitsu
Et
brésilien.
ouais.
Et pourtant, La majorité de ses wins, c'est des KO. Et attention. Et
Il a quel âge là?
il
Et il a
a.
30 piges, je suis en train de voir, c'est
Ouais,
incroyable.
on dirait qu'il a beaucoup plus. Mais
Ouais,
aussi un gros respect à Julian Marquez parce que la majorité aurait abandonné après le premier knockdown.
ah,
Le
bah,
mec,
absolument.
il est resté, il s'est relevé. À un moment, je gueulais au ref, je disais, vas-y, arrête! Arrête le combat, mec, là, ça y est, c'est bon, quoi.
Ouais.
C'est bon, on sait où ça va arriver. Et ce qui s'est passé, c'était vraiment, vraiment lourd. Vraiment, vraiment
Ouais.
lourd.
Ah non, mais incroyable. Hein. Mais d'ailleurs, pour revenir à Marquez, qu'est-ce que tu penses, toi, Manu, de ce qui s'est passé avec Miley Cyrus?
Contre, pardon?
De ce qui s'est passé pour Marquez avec Miley Cyrus?
Écoute, je sais même pas c'est quoi l'histoire avec Miley
Oh!
Cyrus. Parce qu'il faut savoir
Oh!
que, parce que
Wow!
déjà, il
Wow!
faut savoir que Julian Marquez, il a un podcast avec une actrice
Oui!
porno qui s'appelle
Avec...
Kendra Lust.
Ouais, c'est ça, C'est pas
Ouais,
vrai? Si, si! Ah, tu
ils ont un
savais pas
podcast
aussi?
ensemble. Ouais, elle est
Ouais,
super.
putain! Ouais.
Ils sont super potes, ouais.
Ouais. Ok, bah parce qu'en gros, l'histoire de Marquez, du coup, avec Miley Cyrus, c'est que c'est typiquement le dribble de trop. Et en gros, il a gagné le dernier combat avant Gregory Rodriguez. Et il a call out. Enfin, non, c'est pas qu'il a call out. Il a invité Miley Cyrus pendant son interview d'après-combat à dîner au restaurant. Et alors que c'est Miley Cyrus et qu'elle a probablement 100 milliards d'autres trucs à faire, elle avait répondu, je crois que c'était sur Twitter, il me semble,
Au
comme
Twitter.
quoi elle était OK. Et inexplicablement, alors que c'était dans le sac, Julian
Pourquoi il s'est
Marquez,
pas pointé?
il a, je sais plus ce qu'il a fait, il a
Non, il a
redemandé.
redemandé un truc en plus à
Ouais, il a
Miley Cyrus.
redemandé un déguisement de. Ouais, OK, mais si tu fais un déguisement de Blanche-Neige ou je sais pas trop quoi. Et il a perdu sa main, et du coup, ça ne s'est jamais fait. C'est une belle leçon, ça, quand même, hein.
Ouais.
Donc voilà, c'était ça
Et
l'histoire.
du coup, il perd son combat d'hier soir à cause de ça. Il aurait dû mettre sa tenue. Au lieu de Blanche-Neige, il est tombé sur Robocop. Pas de
Mais
chance!
non, mais il avait fait.
Ouais,
Terrible.
mais c'est vrai que Rodriguez, impressionnant. Et c'est. On cite souvent des
Oui,
gars comme.
Miley Cyrus avait répondu, voilà, en story Instagram, j'aurais pu être à toi, mais t'es un abruti.
Ah merde! Hey! Regarde, c'est comme Benil Darius qui call out Elon Musk parce qu'il attend toujours sa Tesla et que
Oui!
finalement il n'a pas eu sa Tesla tout de suite, mais ils lui ont filé une voiture, une autre Tesla en attendant qu'il reçoive sa Tesla. Et cet enchaînement magnifique, moi j'ai reçu ma nouvelle Tesla et je suis en super kiff. C'est ma troisième
Oh,
Tesla. C'est ma
ta
troisième
troisième.
Tesla. Ouais, et là je suis sur ma troisième et j'ai le modèle X Plaid. Et
C'est quoi
oh,
ça?
c'est le haut de gamme du modèle X Tesla et c'est juste une fusée.
Attends,
Wow!
c'est modèle X plane.
A Plaid,
Plaid.
Plaid. C'est
Ok, X-Plane.
0 à 100 en 2,4 secondes.
What?
Je
Ah oui, c'est un
crame.
SUV en fait,
Ouais,
le
ouais, ouais,
bordel.
ouais, ouais.
Un SUV qui fait 0 à 100 en 2 secondes 5 ou
Ouais,
9.
ouais. 2,4, ouais. Eh ouais!
What?
Eh ouais! Eh,
Ouais.
l'argent du porno! C'est
Wow.
l'argent du
Et
porno! C'est pour ça, les gars, donnez de l'argent à mon litchi, s'il vous plaît. Ah non, pardon, j'ai pas de litchi, moi. J'ai pas de litchi, j'ai pas besoin de votre oseille, les gars.
My God, my God. Mais attends, mais t'as un grand écran ou pas? Ouais, bah
Oui,
ouais, il est
mais
monstrueux là de ce
ouais.
que je vois.
J'ai grand
Une
écran
télé.
devant,
Le
petit
mec, il y a une télé.
écran, j'ai un écran
Waouh.
derrière aussi. Ouais, c'est vraiment. Et déjà,
Waouh.
mes anciennes Tesla étaient exceptionnelles, mais celle-là, c'est vraiment.
Ok. Et
C'est bon.
pour le coup, au niveau de l'autonomie, ça aussi, c'est une dinguerie
Ouais, j'ai
apparemment.
350 miles sur la batterie, donc vous multipliez par 1,6.
Ouais. Ce qui nous fait.
450, un truc comme ça? Un peu plus, je
Qui
pense.
nous fait 560, oui,
Ouais, ça,
parfait.
oula. Super.
Ouais. Waouh!
Un peu sport
Damn!
papillon et tout, just for the style. Ah
Non,
merde.
porte-papillon!
Ouais,
Ouais.
mes gamins kiffent, mes gamins,
Oh là là!
ils
Mais
appellent
du
ça
coup,
le hyper
alors, est-ce
space.
que c'est la voiture pour tous les jours ou c'est la voiture un peu pour.
Moi, c'est celle que j'utilise tous les jours, mais c'est
D'accord.
super pratique. Et le truc qui est drôle, c'est d'avoir un monstre comme ça, mais en vérité, moi, je conduis pas vite. Je suis le mec qui conduit, je suis un papa, tu vois ce que je veux dire? J'ai pris l'habitude de conduire comme quand j'ai mes enfants dans la voiture, du coup je suis pas, tu vois. Ouais, j'ai posté des photos sur Twitter pour ceux qui sont sur le chat et qui veulent jeter un œil. Mais bref.
Ouais,
Bref,
ah.
bref,
Oh
bref,
là
bref.
là.
Revenons-en à nos moutons.
Oui, revenons-en à nos moutons, à savoir l'UFC.
Adrian Yanez contre Tony Kelly. Yanez.
L'attitude! How about
Ouais,
the attitude?
bien sûr.
Oh là, oh là
Tout, tout, tout. Le mec, c'était un sniper hier.
là. Ouais. Mais
Pratiquement
c'est
tout ce
vrai
qu'il a
que.
envoyé connectait, quoi.
Ouais, c'était téléguidé. Mais en plus, c'est vrai qu'il y a. Bah, du coup, c'était une des insultes qu'avait utilisé Tony Bellew. Tony Bellew. Tony Kellyou?
Kelly.
Kelly. Mais c'était de dire que c'était la version Wish de Jorge Masvidal. Bah, Wish, ça on peut l'enlever, mais Jorge Masvidal, il y en a. Parce que franchement, il a. Il est tellement. Ah, au-delà du look, hein, évidemment, il est tellement similaire dans sa manière de gérer les kicks. Et les attaques adverses pour répondre avec une vitesse de main impressionnante et une précision et un timing de fou. Honnêtement, moi, c'est vrai que perso, j'ai vraiment vu du Masvidal dans Yanez 1 et du prime Masvidal, du Masvidal versus Cowboy, tu
Et
vois.
dans le look, je vois même du Pettis. Tu reconnais
Ouais, mais
Pettis?
plutôt Sergio, du coup.
Ouais, ou
Plutôt
Sergio,
le petit
ouais, avec
frère.
la petite beubard, ouais. Je
Ouais,
vois
mais c'est vrai, ouais.
la fusion de ces deux gars, de Masvidal et de Pettis.
J'avoue.
Mais encore un combat exceptionnel et
Ouais.
ce qu'il a fait à Kelly, c'était aussi mal poli. Et pourtant, Kelly, c'est pareil, c'est un bon clicos, quoi. C'est un bon
Ouais.
client. C'est un bon client.
Ouais. Et
Bon,
pourtant, vraiment facile,
ouais, c'est
effectivement.
clair. Je sais qu'on a déjà parlé de Damir Ismagulov qui bat à la décision Kutateladze.
Kutateladze, c'était
C'est
ça,
dur pour
voilà,
moi
ouais.
de dire ce.
Ce blaze.
Pareil, c'est un combat qui va à la fin, mais à aucun moment tu te fais chier dans le combat. C'est action,
Ouais.
action, action du début à la fin. Je pense que ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. Mais c'est vrai que je voyais plutôt Ismagulov gagner aussi. Mais j'aurais pas vraiment pété les plombs s'il l'avait donné à l'autre, tu vois, à
Ouais,
Gulov.
ça aurait pas été choquant. Mais c'est vrai que c'est comme Qatar-Emmett, c'est vrai qu'il
Pareil,
y avait un
je suis
tel
d'accord.
niveau technique
Je suis
que de toute façon, tu sais, c'est un peu. Quoi qu'il arrive à la fin du combat, t'écoutes même pas vraiment la décision, les deux sont gagnants à tes yeux. Là, c'était vraiment un de ces combats-là, c'était incroyable.
Perso, je voyais Qatar gagner parce que je trouvais
Ouais,
qu'il
pareil.
était resté à l'extérieur et il avait vraiment contrôlé le combat avec ses jabs du gauche.
Ouais.
Mais voilà, comme on dit, je suis pas fâché qu'il l'ait donné à Emmett. C'était split décision aussi.
Ouais.
Donc, ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. Maintenant, est-ce que je pense que ça a été. Parce que lui, maintenant, Emmett pense que grâce à cette victoire, il va combattre pour le titre. Je ne sais pas si c'est la performance qui t'amène au titre.
Ouais, c'est ça. C'est pas
Avec tout
assez
le respect que j'ai,
décisif.
bien sûr. Avec tout le respect que j'ai, bien sûr.
Ouais, non, c'est sûr. C'est s'il l'avait arrêté, là, il y avait moyen. Il y avait moyen de demander, même si c'est quand même une catégorie qui est assez chargée. Mais c'est vrai que là, même si le combat était magnifique, enfin, je pense que dans le cerveau de nous tous, on a envie de se dire, si tu n'arrives pas à faire clairement la différence avec Qatar, qui est un excellent
Bien sûr,
combattant,
bien sûr.
mais pour, entre guillemets, mériter un combat pour le titre, c'est quand même
Oui,
tendu, c'est
quand tu
vrai.
regardes un Holloway Qatar et un Emmett Qatar, c'est pas,
C'est
c'est deux
ça,
mondes de
c'est
di
ça.
c'est deux mondes différents, quoi.
Ouais, grave. Non, c'est sûr. Mais bon, il est fun et si jamais il y a vraiment personne, bon, ce
Bien
sera
sûr.
personne se plaindra d'avoir Emmett dans un combat pour le titre.
Et honnêtement, je pensais à aucun moment que ça irait la distance. Je pensais qu'un des deux partait sur ce combat.
Ben ouais, moi aussi. Ben en plus, il y a eu un moment, genre deuxième, troisième round, où les impacts étaient nets d'un côté et de l'autre. Et ben c'est vrai, pareil, je pensais que l'accumulation de coups d'un côté ou de l'autre allait faire la diff, mais finalement, ils sont trop solides en fait, quoi.
Ouais, je voyais quand même la décision, moi. Quand même. Quand même, quand même, quand même. Parce que, en vrai, pour mettre KO Emmett.
Ouais. Non, je
Ah
vois,
bah, pour être violent.
mais c'est un clash de Yonko pour ceux qui connaissent un peu One Piece. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'ils sont tellement puissants et tellement doués les deux, c'est que ça arrive. Quand c'est vraiment tellement à des niveaux proches, ça s'annule presque. Tu vois?
Ouais. Ouais.
Ouais, non, c'est clair.
Ah,
Mais
j'ai
là,
dû arrêter
c'est.
les One Piece trop tôt, moi. C'est
Moi,
toi,
c'est moi.
c'est quoi un Yonko, juste
C'est
en très,
les
très, très vite?
empereurs. C'est les empereurs.
Ok.
Empereurs des mers.
Ben
Putain,
voilà.
je vais m'y remettre. Excuse-moi,
Moi,
Guillaume, pardon.
ce qui me, ouais, non, moi, ce qui m'embête surtout, c'est pour Calvin Kattar, là, parce que tu vois, Josh Emmett, en soi, s'il perdait, c'est pas très grave, même là, il demande le title shot, je pense qu'il l'aura jamais. Mais pour Calvin Kattar, c'est vraiment chiant, là, qu'il ait perdu, parce que je sais pas trop ce qu'on en fait maintenant.
Bon, en soi, il aura toujours un bon niveau. Il est, les gens commencent à le connaître. C'est un, pour moi, c'est un bon, enfin, title keeper ou je sais pas comment on dit, mais voilà, c'est, il garde la porte du top 10 solidement, quoi. Du
Ouais,
coup, un bon moyen de voir si le petit jeune vaut le coup sur les années à venir.
bien sûr. Puis c'est une bonne KT, il est encore très jeune, il a de la
Ouais.
marge de progression et
Ouais, voilà.
c'est aussi
Ouais.
souvent le problème de bon maintenant l'UFC ils ont compris que de créer des hypes sur les mecs c'était vraiment important, mais ça a été un peu le problème pour lui, c'est qu'on ben, tu crées une hype et puis à un moment t'arrives. T'as Bronson, t'as Holloway, t'as ben, Emmett maintenant, tu vois. T'arrives dans la cour des grands. Est-ce que tu vas rester avec cette hype ou est-ce que tu vas te choquer? Et c'est vrai que Bronson, il en a calmé pas mal en fait. Dont Kevin Holland aussi.
Branson?
Ouais, c'est pas Bronson qui avait battu Kata? Ah non, 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 pardon.
Non, non.
Non, non, pardon. Bronson, il avait. Il avait fait Kevin Holland et il avait aussi calmé un autre mec sur qui il y avait une grosse hype. Pardon.
Oui, Bahi Shabazian.
Shabazian, voilà.
Ah, oui,
Pardon.
d'accord. Ok.
Je confonds souvent Shabazian et Qatar, excusez-moi. Mais
Ouais,
ouais,
mais oui, c'est vrai.
bref.
Ouais,
Mais bon,
c'est
ça
parfait.
reste le commentaire de la hype. Ça marche quand même dans le sens où c'est vrai que maintenant ça pousse énormément de mecs. Mec, ça peut être, tu vois, ça peut être assez dangereux malgré tout.
Ouais, non, c'est clair.
Comme par
En tout cas,
exemple
voilà,
le
très fun.
prochain combat de Paddy Pimblett. Ils l'ont mis
Comment il s'appelle
contre.
déjà l'adversaire?
Putain, j'oublie. Eh, lui, il est
C'est
pété. Il est.
Jordan le
Ouais,
twerker.
il fait des twerks, il fait des moves de strippeuse quand il
Jordan
gagne.
Leavitt.
Ouais,
Ouais, voilà.
mais qui est un gros client et qui. Ça risque d'être
Va
un
pas être
combat
facile, hein.
intéressant et on va voir si Paddy. Live up to
Ouais.
the expectations.
Mais ils sont forts quand même au niveau matchmaking parce que c'est vrai que maintenant
Bien
que
sûr.
tout le monde est d'accord que pour Paddy Pimblett, il faut mettre des mecs fun et pas non plus trop classés pour l'instant, ils sont franchement c'est parfait. Un mec qui fait ce genre de choses hors de la cage, qui est ultra spectaculaire dedans et qui n'hésitera pas à parler s'il faut parler, franchement en plus pour un UFC Londres, mais c'est parfait
Bien
quoi.
sûr, ouais. Bien sûr,
Ouais, attention à la clim hein, cependant. Attention à la
ouais.
clim.
Bah maybe hein, on va voir. Mais bon, quand même, normalement il gère. Il peut pas perdre sur son sol. Enfin, il a déjà
Oui.
perdu sur son sol, cela dit.
Oui, plus d'une fois.
Ouais.
Mais non, je pense que ça va être quand même un petit peu chaud pour Paddy. Enfin bon, we'll see.
C'est
Mais
clair.
qu'est-ce qui s'est passé d'autre cette semaine là? D'ailleurs, tu trouves pas aussi que c'est un peu bizarre ça, Manu, qu'en ce moment il n'y ait pas trop de MMA news.
C'est oui. C'est je sais pas si c'est l'été, je sais pas si mais c'est vrai qu'il se passe pas de trucs de ouf. Je crois qu'il y a John Jones qui a officiellement annoncé son retour.
What?
Ouais, je crois que c'est tombé aujourd'hui.
What?
Ouais,
Attends,
attends.
what? On
Attends.
a manqué ça, nous?
Attends,
Pas
attends.
possible. Attends, let
Attends,
me
attends.
check. Sur MMA Fighting, ça fait pas la news, en tout cas.
Oh. Attends, je viens de. I'm coming back after more than 2 years and winning the UFC title. C'est ce
Wow.
qu'il a annoncé.
Ah oui, mais c'est une déclaration, entre guillemets, y a pas,
Il n'y
il
a
annonce
pas
pas de
de. Non,
date.
il annonce pas de date de
Oui.
combat officiel, mais il a annoncé officiellement qu'il revenait. Donc,
Mais déjà ça, c'est bien.
il y a eu un
Ouais.
bon event en France. Je sais que vous y connaissez beaucoup mieux sur le MMA français que moi. D'ici, c'est
Oui,
pareil.
c'était, il y avait le 100% fight
Il y a eu le
hier.
100% fight.
Il y avait le 100% fight avec Ramzan
Ramzan
Jembiev qui a
Jambiev.
signé une troisième victoire
Oui.
consécutive. Et là, je crois que pour la suite, pour lui, il avait mis quelques stories. Je crois que ça ira du côté du KSW.
Ouais, super.
Alors, ce serait cool ça. Hein.
Peut-être pas,
Bien
enfin, en tout
joué,
cas, un
Ramzan
MMA international.
qui s'était blessé à l'œil la
C'est ça.
semaine du combat et qui arrive. Tout le monde flippait un peu que ça passe pas. Et puis le mec,
C'est
finalement,
clair.
les docteurs l'ont laissé combattre et ils ont bien fait. Regarde, il gagne son combat. Donc,
Oui,
bien
ouais, ça,
wesh,
c'est ça. C'est un
Ramzan.
guerrier. De ce côté-là, il n'y aura pas de souci
C'est
avec Ramzan,
clair,
je pense.
c'est clair, c'est clair. Mais j'ai hâte de voir tout ce que ces mecs du MMA français vont accomplir maintenant.
Ouais,
Vraiment,
pareil.
ça va vraiment s'ouvrir. Ils ont annoncé Andrade et
Ah, Emmanon
Une
Fioro,
apparition de
ouais.
Manon.
Bah après, c'est un autre niveau, dans le sens où c'est vrai que Ramzan, pour l'instant, moi, je pense qu'on l'a pas vu, tu sais, pousser dans ses derniers retranchements. Là, Manon, il y a quand même une vraie montée graduelle.
Bien
Il y a eu
sûr.
aussi un délire, enfin, toute proportion gardée, parce que c'est le niveau UFC, ça n'a rien à voir, mais dans le sens, elle a eu son combat aussi quand elle sortait du Covid, donc son dernier combat, donc, qui était compliqué. Et là, contre Andrade, pour Manon, ça va être un vrai test.
Ouais. J'ai parce que là, parce qu'à la base, elle devait combattre contre Shookagian, qui est aussi au top de
Ah bah grave.
de la KT, mais c'est pas
Mais
Andrade. Andrade, elle a
voilà,
été
elle allait la
championne,
plier.
elle a battu Rose Namajunas, même si c'était un combat étrange parce que elle se fait dominer tout le combat. Rose va sur une soumission. Jessica Andrade la soulève, l'éclate sur le crâne, la fait tomber sur le crâne. C'était un peu Orona, tu sais, contre. Et gagne la ceinture, se fait éclater peu de temps après. Mais grosse cliente, quoi, par rapport à Shookagian. Shookagian, je la vois pas avec une force de frappe. Tu vois, c'est quelqu'un qui gagne au point plus que.
Ouais, c'est ça, elle est moins dangereuse,
Bien
quoi.
sûr.
Ouais.
Ouais.
C'est pour ça que ça va être intéressant. En plus, ce qui est bien, c'est que vraiment, Shukagan, c'était cool parce que c'était quelqu'un de complet, mais si tu bats Andrade, qui a effectivement
C'est
déjà eu le
ça.
titre, ouais, ça veut dire, et qui est surtout dangereuse et que les gens connaissent parce qu'elle a fait des trucs beaucoup plus spectaculaires que
Bien sûr.
Shukagan. Honnêtement, c'est tout bénef pour Manon de passer à Andrade. Franchement,
C'est
ça fait
ça,
plaisir.
pour moi, Shukagan, il y avait juste le classement, tu vois. Il y avait
Ouais,
vraiment
c'est
juste
ça.
le classement, et
Exactement.
personnellement, une défaite, je sais pas ce que vous en pensez, là, donc Aldric Cassata, entraîneur de Manon, nous regarde assez souvent. J'espère ne pas te manquer de respect quand je vais dire ça, ou qu'il va pas se dire Guillaume s'abuser, mais pour moi, si Manon affrontait Chukayon et qu'elle perdait, ça aurait été vraiment une vraie déception pour moi, tu vois. Là, contre Jessica Andrade, pour moi, c'est 50-50, et si Manon là-bas, ça veut vraiment dire quelque
Ah bah
chose.
ouais.
Et pour les Américains, ça veut dire ok, on a vraiment quelqu'un là qui fait flipper.
Bien
Chukagan, il
sûr.
n'y a aucun moment, même dans son run jusqu'à Valentina Shevchenko, où elle m'a fait flipper, et même le combat contre Valentina Shevchenko, je savais que c'était plié.
Ouais.
Donc, enfin, il n'y a aucun moment où je me suis dit on est sur calibre champion avec quelqu'un comme ça. Jessica Andrade, elle a beau s'être fait, enfin, ça a beau être fait comp était compliqué pour elle contre Valentina Shevchenko, elle fait peur parce que tu sais pas ce qui peut se passer avec elle,
Bien sûr.
parce qu'elle a vraiment du poing dans les, du poing.
Bien sûr.
Qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je raconte? Elle a vraiment du fer dans les mains.
Bien
Et donc
sûr.
elle est vraiment très dangereuse. Donc c'est pour ça que moi je suis très content pour Manon qui est ce combat-là. Parce que elle a un petit, à mon sens, un petit déficit d'image outre-Atlantique. Et même en France. Et avec ce combat-là, ça va vraiment lui permettre de montrer que bah, sa place dans le classement, elle n'est pas usurpée. Et puis que bah, prochaine étape après, c'est title
En
shot.
fait, je comprends ce que tu dis. C'est que une victoire contre Shookagian, ça passe presque inaperçu.
Et ça.
Alors qu'une victoire contre
Ouais.
Jessica Andrade, tout de suite, ça te met sur le devant. Tout de suite, les gens vont commencer à dire: Ah merde, eh ben, Jessica Andrade, c'est du sérieux, on y va. Quoi. Donc,
C'est ça.
Manon, on sera là en tout cas et on applaudira fortement pour toi pendant le combat.
Ah bah,
tu vas y être au
parfait.
fait, Manu, ou pas en présentiel?
Je serai là.
Wow!
Je serai là, je viens, j'ai dit à ma meuf: M'en bats les couilles, tu viens pas, c'est pas grave, moi j'y vais. Quoi qu'il se passe,
Let's go.
quoi qu'il se
Let's.
passe, j'y vais.
Et
Et du
est-ce
coup,
que. Et attends. Et est-ce que du coup. C'est dans longtemps, on sait pas ce qui peut se passer d'ici là. Hein. Ça peut être l'apocalypse. Mais est-ce que du coup, le dimanche 4 septembre, on peut se dire qu'on fait un ground and pound en
En
présentiel?
pré
oh,
wow.
let's go, c'est parti.
Allez.
C'est
Close it
parti.
down.
Est-ce
Allez,
que
allez, allez.
y a pas un Ares Fighting le jour avant l'UFC?
Le 2,
Let's go!
tu seras passé?
Ah, on va, je vais être obligé d'y aller. Bien sûr que je vais
Oh
être obligé
putain.
d'y aller.
Ah oui,
Je vais
d'accord. Le grand chelem.
passer quelques coups de fil et je vais essayer de
Oh
me je vais
putain.
me déguiser en agent de sécurité et essayer de gratter une petite place devant la cage, tu vois.
Voilà,
Parce
voilà.
que
Ah, ça va être incroyable.
et
Non, mais
c'est
c'est.
hey,
Mais...
et regardez comment je
Vas-y,
suis fort. Mais en parlant
vas-y.
de Ares Fighting, il se passe pas
Ah, mais
quelque chose
oui!
avec le Ares? Oh, il est trop fort, putain, mais pourquoi il fait pas de la télé cet acteur porno?
Mais oui! Non, mais j'avais complètement oublié. J'avais complètement oublié que ce week-end, il y a Karlamoussou Abdoul. En vrai, je suis chaud. C'est C'est
Plus
très
on se
bizarre.
rapproche, plus je suis
Ouais.
hypé. Parce que
Ah!
j'adore Karl. J'adore Karl. Je suis
Les
fan
gens
de
du MMA
Karl
français, ouais.
depuis tellement d'années. Et Abdou Karim aussi, c'est vraiment un super combat, quoi. Tu vois, ça, c'est un combat qui pourrait être dans l'UFC et qui aurait sa place, quoi. Et je suis super hypé par ce combat.
Bah ouais, le scénario il est parfait en plus. C'est ça qui est vraiment trop cool, c'est que c'est tellement la définition de théoriquement le passage de flambeau si jamais ça se fait, sauf que ça peut très bien aussi aller du côté de Frankie Edgar versus Yair Rodriguez, quoi. Dans le sens, bon, Karl Amoustou, de toute façon, c'est clair que ceux qui suivent le MMA français le connaissent, le bon, surnommé Psycho, déjà, la réponse est dans la question. C'est un gars, lorsqu'il est chaud et lorsqu'il est affûté, le mec fait trembler tout le monde. Il a été super loin dans sa carrière, il a été au Bellator. Et c'est vrai que là, le fait qu'il affronte le Lazy King, donc Abdul Abduragimov, qui est grosso modo vu comme le prodige du MMA français, bah, c'est vraiment parfait parce qu'on sait que Karl Amoussou peut lui faire salement mal debout. On sait aussi qu'au sol, il s'entraîne avec Thomas Loubersan et donc que là, il a été préparé, mais aux petits oignons pendant des mois, justement pour contrer le jeu de Abdul Abduragimov. Mais alors la réponse à la question, c'est est-ce que c'est possible de contrer le jeu d'Abdul Abduragimov si jamais t'es au sol? Enfin, il y a tellement d'inconnus que franchement, ça rend le truc vraiment, vraiment alléchant, quoi.
Et puis les mecs se connaissent, et puis ils se connaissent, tu vois. Parce que honnêtement, moi, ça ajoute au côté hyper intéressant. Tu vois qu'il y a eu beaucoup de sessions d'entraînement entre les deux. Parce que sinon, sur le papier, là, aujourd'hui, moi, je trouve que c'est bien parce qu'enfin, on a un truc. Tu vois, c'est comme quand il y avait eu ça en boxe anglaise entre pop, Tony Yoka et Johan Duopa, où malheureusement, ça avait été trop court. Où t'as la légende qui revient, qui est pas non plus sur la fin, avec le prospect qui arrive. Le problème, c'est que ça avait été beaucoup trop court, parce que si vous vous souvenez, Tony Yoka avait plié ça en un round. Là, on a un truc où ils sont entraînés ensemble. Abdul est quand même loin d'être rincé, puisque son dernier combat, il a pris la ceinture de l'Hexagone MMA. Il affronte Abdul. On sait que des deux côtés, l'aspect mental est primordial, parce que Karl, soit ça lui permet dans son
C'est
A-game,
vrai.
ou alors il peut complètement dérailler. Du côté d'Abdul, sa seule défaite en carrière, c'est parce qu'il y avait une défaillance mentale aussi. Et ils vont avoir, et en plus c'est en France, donc vous pouvez être sûr que ce soit la famille, les potes, tout le monde est au courant. Il y a tout le
Ouais,
monde qui dit,
bien
bah alors
sûr.
tu vas affronter Karl. C'est le mec qui était quand même, qui est représenté par ton ancien manager. J'adore. J'adore parce qu'on a un scénario à l'américaine dans un
Tu
truc en
sais,
France.
moi
Ah, c'est
j'ai
top.
vraiment un truc pour Karl parce que vraiment ça fait des années que je le suis. Je suis grand fan de Bertrand aussi à la base.
Ok.
Il faut savoir que moi j'étais gamin judoka. J'allais à l'époque faire ce qu'on appelait les entraînements de masse. Donc c'était des entraînements où tous les clubs venaient s'entraîner. Le cours était donné par Bertrand. Mec, j'étais ado, tu pouvais combattre avec lui, le mec, tu le bougeais ap. Et il a fait énormément pour le MMA français,
Ouais,
Bertrand.
il a été combattre Ben Askren au Bellator.
C'est bien sûr.
Ouais, Karl, ouais.
Pour la
Karl,
ceinture.
ouais.
Ok,
Bertrand,
Karl, pardon,
oui,
Karl.
Bertrand avait
Ouais.
combattu au Pride. Oui,
Absolument. Bah,
Bertrand
le
a combattu
seul,
au Pride, bien sûr. Et
le seul à avoir une victoire au Pride.
au Pride, oui, parce qu'il y a Cyril Diabaté qui avait combattu au Pride aussi.
C'est ça. Absolument. Ouais. Contre
C'est le
Shogun,
seul à
d'ailleurs.
avoir une
Ouais,
victoire.
contre Shogun. Comment dire, Bertrand aussi, qui avait créé à l'époque le premier magazine de MMA en France. Je me rappelle plus du nom du
C'était pas Fight
magazine
Sport?
Fight Sport.
Si.
Et le truc qui est très drôle, et c'est là où tu vois que les chemins se croisent, c'est que je rencontre Bertrand des années plus tard. Parce qu'il était partenaire sur ce magazine avec un mec qui s'appelait Serge. Serge, c'était aussi le mec qui avait commencé le magazine Connexion, qui est le magazine dans lequel il y avait l'annonce de casting qui m'a fait commencer dans le porno.
Mais non! Oh.
Imagine comment les choses se croisent. Et comme si déjà ce truc de ouf. Et du coup, je revois Bertrand avec Serge, on parle, on discute, nanana. J'étais déjà devenu Manuel Ferrara, donc c'était fun parce que c'était des mecs que moi j'ai connus. Bertrand quand j'étais gamin, je connais Serge quand je commence dans le porno. Des années plus tard, je deviens Manuel Ferrara, on se voit, bababa. Des années plus tard, il y a un combat, des combats organisés. Au Forum de Los Angeles, dans une ligue, je ne me rappelle même plus du nom de la ligue, où c'était le dernier combat de Bas Rutten qui faisait son retour contre un mec qui s'appelait
Allez,
Warpath.
Hostie.
Qui s'appelait Warpath. À la base, il devait combattre contre Kimo.
Mais c'était à l'UFC, ça.
Non, c'était pas à l'UFC. C'était une autre ligue un peu chelou. Et c'était... Normalement, il devait combattre contre Kimo.
Kimo Leopoldo, ouais.
Kimo Leopoldo, qui s'était fait pop pour les stéroïdes. Du coup, ils l'ont remplacé au dernier moment par un mec qui se faisait appeler Warpath, qui combattait avec une tenue de lutteur.
C'est vrai, Ruben Villarreal, et au WFA. Ouais,
je suis avec un pote, on est en combat, on va choper un truc à boire. Sur qui je tombe? Bertrand Amoussou, au combat, on se pose ensemble, on rigole, on discute.
Énorme.
Ouais, j'ai énormément de respect pour Bertrand et pour Karl. Et ça me fait plaisir de voir un mec comme Karl encore sur le devant de la scène du MMA français, quoi. Parce qu'il nous
ouais,
a représenté pendant des années encore au niveau mondial, quand même.
Mais c'est ça, en fait, ce qui fait... Mais pareil, parce que c'est vrai que moi aussi, du coup, les premiers moments que j'ai eu avec le MMA, c'était avec le magazine Fight Sport, donc il y avait le DVD en plus. Je me souviens, j'avais eu le KO de Fedor de Affliction contre Arlovski dans un des DVD, c'était la folie. Et c'est vrai que c'est la première fois aussi où j'avais justement entendu parler de Karl Amoussou. Et du coup, il y a valeur sentimentale, mais c'est vrai que... C'est tellement un. Bon, déjà, physiquement, c'est con, mais tu sais, c'est bon, il a un physique de super-héros, donc déjà, quand t'es petit, t'es en mode. Oh! Et du coup, une fois que tu l'as comme ça verrouillé, tu vas voir un petit peu ce qu'il a fait. Tu vois qu'il a été jusqu'au Bellator, et qu'effectivement, donc il a été combattre Ben Askren pour la ceinture, qui est. Bah, on ne présente plus Ben Askren de toute façon. Ouais. Mais du coup, il a gagné, parce que c'est un système de tournoi au Bellator, et il avait réussi à aller jusqu'en finale, ce qui était ouf. Hein, c'est
énorme.
Le Bellator, jusqu'à aujourd'hui, ça reste une organisation monstrueuse. Et c'est vrai que il a eu ses hauts et ses bas, mais c'était un des premiers combattants français où je m'étais dit, putain, quoi qu'il arrive, ce mec-là, tu veux regarder ses combats. Et du coup, ça fait vraiment plaisir que aujourd'hui, on est en 2022, il a eu donc un parcours en Dancy sur les dernières années, mais le fait de le revoir comme ça, sous le feu des projecteurs, sur le devant de la scène, pour un truc qui est quand même énorme. Enfin là, honnêtement, tout le monde en parle de ce combat-là, c'est vraiment impressionnant, parce que du coup, des deux côtés, il y a eu beaucoup de gens qui sont investis, donc on parle de Luberson, qui est la grosse pointure du coup en sol, il y a eu de tous les côtés, il y a eu des gros noms qui se sont mis dans le combat pour que ça explose, et ça fait vraiment plaisir de voir Karl au milieu de tout ça, franchement.
Bien sûr.
Oh, c'est clair. C'est clair, mais surtout pour quelqu'un comme ça, là. Enfin, ce qui serait cool, moi j'aurais bien aimé que là, ce soit officiel, que le vainqueur... Et sa place à l'UFC Paris.
Ouais, oh, ce serait tellement. T'imagines l'enjeu bien, parfait, quoi.
Ouais. Oh. Ouais. Ce serait super.
Ouais.
Et dans tous les cas, Paris, ce serait une belle histoire. Ouais. Ouais.
Moi, j'attends avec impatience le retour de Taylor Lapillus dans l'UFC. Oh. Et j'aimerais vraiment s'il était sur la carte de l'UFC Paris. Honnêtement, ce serait
parfait. Ah ouais.
Ce serait incroyable.
Il mérite tellement. C'est vrai que
surtout
ouais, et puis on parlait
de l'UFC. Son record dans l'UFC était superbe, quoi.
3-1. Ouais.
Donc incompréhensible. J'ai jamais compris.
Ouais. Bah ouais, moi non plus, mais c'est vrai qu'en plus c'est là du coup il est champion de il est champion d'Arès.
Oui.
Oui, il est champion d'Arès. Oui. Et vu les performances qu'il fait, surtout, c'est, on parlait du combat là, de ce week-end, par exemple, entre Kutateladze et... j'ai oublié le nom. Mais en tout cas, on parlait Ismaïgoulov, d'un combat super technique.
Attends, je vais dire.
Ismaïgoulov, ça, Damir. Et c'est vrai que Taylor, c'est pareil. Là, dans le milieu du MMA français, si vous voulez voir un technicien, mais vraiment, c'est du caviar. Quoi qu'il fasse, c'est réfléchi, c'est beau, chaque mouvement est mesuré, etc., c'était l'or, quoi. Donc c'est ouais pareil, ça ferait plaisir de le voir continuer ce run qui a été terminé abruptement à l'UFC, c'est vrai. Voilà, j'ai que ça qu'à dire.
Le comeback serait beau, en plus à Paris pour la première carte UFC, le comeback serait parfait, quoi.
Ouais.
Parfait.
Et si ouais, en plus puis il aurait vraiment sa... pouvait venir aussi, ce serait pas ouais. mal.
Et puis il aurait vraiment sa place, parce que pour l'instant, messieurs, l'état de la carte de l'UFC Paris, je vais vous le donner.
Ah, je vais le dire.
Il pourrait y avoir un petit peu plus de Frenchie. J'avais la page juste devant moi. Je l'ai. Donc on a Zara Fern contre Aline Perez, Alessio Di Chirico contre Roman Kopilov, donc c'est Alicia de Chirico qui a mis KO Joaquin Buckley. Nasrat Akparas contre John McDessie, c'est le
ça, c'est cool, ça.
Qui a été annoncé très récemment. Encore.
Ouais.
Ouais, ouais, non, puis il est en forme. Ouais, Mahmoud Mouradov contre Abous Magomedov, donc ça promet avec Mahmoud Mouradov. Bon, Jessica Andrade, Manon Fiorro, Robert Whittaker, Marvin Vettori et Cyril Gane, Tai Tuivasa, Main Event. Donc si vous comptez bien, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 combats sur 12 qui sont annoncés. Il reste donc 5 places à pourvoir. Enfin, 10 places en tout, 5 combats. Excellent. Donc il y a le combat de Taylor, peut-être combat de Benoît Saint-Denis.
Benoît, et du coup, il reste 3 combats. Qui a dit que finalement
ça allait peut-être se faire, ouais, peut-être.
Mais
peut-être,
je vois le futur, que... les gars. Mais moi, je vous le dis, c'est parce qu'il a vu notre podcast. J'ai dit, oui. Revois tes priorités. J'ai dit, Benoît, je te kiffe. Ton mariage, c'est pas, tu vois, c'est une erreur. De toute façon, te marie pas, Benoît. On te kiffe, mais crois-moi, parole de mec qui a divorcé dans le passé, le fais pas, frérot. Va au combat, juste c'est pour nous, c'est pour les fans, s'il te plaît, on a envie de te voir en France, merde. En plus, ça me permettrait de revoir Daniel, ce serait super cool, let's go.
Oui, fais-le pour nous, voilà.
Ouais, fais-le pour nous. Non, mais en vrai, je pense que ça va se faire à l'UFC, pareil. C'est juste au niveau, bah, c'est ce qu'il nous a dit, c'est que ce serait pas des conditions idéales pour son mariage, quoi. Bah, parce qu'il serait obligé de se...
Bah, non, ça, en gros, il peut pas repousser.
Pas de gâteau, quoi. Pas de gâteau surtout.
Même en pleine prépa, en gros, ce serait quoi, c'est parce qu'en plus c'est un mage qui est dans le sud, donc en gros serait un délire, genre il s'entraîne le vendredi matin, ensuite direct il prend la bagnole pour aller à son mariage. Enfin, tu vois, même au niveau des conditions pour aborder la Fight Week, c'est pas idéal.
Il faut juste voir les côtés positifs. Le costard sera parfait, bien cintré comme il faut, pas de, tu vois, donc faut voir aussi.
C'est vrai.
Et puis, bah, moi, j'ai essayé de le pervertir, hein, clairement, en lui disant, et en plus, du coup, si jamais t'arrives à faire les deux, ce sera le mariage le plus historique ever, quoi.
Bien sûr.
C'est vrai. Ouais, et puis, quoi qu'il arrive, ça fait une anecdote de malade, tu vois.
Bien c'est sûr. Ça, bien c'est sûr. Ça.
Donc, non, mais c'est vrai. Et puis, de toute façon, je pense que c'est... Enfin, en soi, pour lui, même pour sa carrière au global, il faut qu'il fasse le combat à l'UFC Paris, parce que je pense que Benoît Saint-Denis, ça peut devenir une des stars du MMA français, dans le sens où il représente vraiment la France, quoi.
C'est un bon moment, c'est le moment d'y être, quoi. C'est le moment.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
C'est le moment d'en faire partie et c'est le moment de prendre ce qu'il y a à prendre.
Clairement. Ouais, c'est des paroles de cynique, ça, je crois. Bon, bref, effectivement. Du coup, on fait la tier list, les gars, ou quoi ?
Let's go ! La tier list, les soumissions. Je te laisse, j'imagine, Guillaume, je te laisse, ou Rusty, c'est comme vous voulez. On part sur quoi exactement sur les soumissions ?
Ah bah, comme d'hab, ça rigole pas. Ça rigole pas, on a quatre échelons différents. La crème de la crème de la crème de la crème. Tout en haut, bah, c'est Golden. Ensuite, on a quoi, Rusty ? On a... Mini Golden.
Ouais, bah je pense qu'on peut partir sur la même chose les KO, dans le sens, effectivement, la première, la Golden. Moi, du coup, j'en ai mis trois. Donc, la Golden de chez Golden. Donc là, ce sont les soumissions qui ont marqué l'histoire du MMA. Donc, c'est-à-dire que c'était à des moments charnières, que ce soit pour des titres qui ont, on va voir peut-être avec Fedor, on va voir, qui ont terminé des séries d'invincibilité légendaires, des soumissions qui, par leur retentissement, il y a eu un avant et un après dans le monde du MMA, dans le cœur des fans. Ça, c'est les Golden. La deuxième, et c'est vraiment lié au contexte, parce que avoir une soumission qu'on n'avait jamais vue, même à l'UFC, bon bah voilà, c'est comme les KO, c'est stylé, mais il faut que ce soit dans un environnement que les gens connaissent, où il y avait la plus grande vitrine médiatique. Donc ça, c'est la première, la Golden. La deuxième, bah, ce sont les soumissions qui ont été faites et qui sont soit très originales et qui ont été un petit peu... Putain, j'ai envie de donner un exemple presque, mais bon, genre, on verra si on le place là-dedans ou pas, mais par exemple, pour moi, Nick Diaz contre Gomi, c'est parfait pour la représentation de cette deuxième catégorie, dans le sens, C'était pas pour un titre, c'était pas pour un enjeu extraordinaire, mais c'était quand même sous le feu des projecteurs au Pride pour un combat incroyable. Le combat était fou. Le truc se finit d'une manière exceptionnelle. Donc, ça n'a pas le même retentissement que les premiums. Il y en aura peut-être vraiment, il y en aura peut-être
qu'on compte sur le doigt d'une main. Même quand c'était fini, c'était pas fini.
De Gomis Dias?
Gomis Dias, Gomis... oui.
Oui.
Parce que...
Attends, pourquoi?
Bah, en fait, il... on en parle après, quand on reparle de Gomis Dias.
on en parle à la récré.
Ouais. Attends, donc non, ça, non, donc j'imagine ça, que ça va revenir dans les...
Ouais, c'est pour ça, c'est pour ça.
J'expliquerai pourquoi.
Donc, et donc, bah, pour moi, ce combat-là et cette soumission, c'est parfait pour représenter la deuxième catégorie, dans le sens, voilà, c'est pas... C'était pas pour genre changement de titre UFC à un moment où tu bats un petit peu comme le KO de McGregor l'était contre Aldo, quoi. C'est pas de ce niveau-là, mais c'était quand même à un très gros niveau, sous feu des projecteurs, et ça se finit de manière incroyable. Donc ça représente bien pour moi ce qu'est la deuxième catégorie. Et la troisième, c'est des soumissions. C'était bon, peut-être sur des UFC Fight Night ou des trucs comme ça. Donc c'était ou au Strike Force ou au Bellator ou. Donc c'est des soumissions qui ont été plutôt là, sur ce truc-là, exceptionnelles, dans le sens on les avait jamais vues en fait. C'était plutôt comme ça, mais il n'y a pas nécessairement de... Le contexte n'est pas un paramètre forcément à prendre beaucoup en compte. Et donc pour moi, par exemple, typiquement pour représenter un peu ça, c'est Ryo Shonan contre Anderson Silva. Donc pour représenter la troisième catégorie, c'est-à-dire que à l'époque, on ne connaissait pas trop Anderson Silva. Ça s'est fait un petit peu sous les radars. Mais la soumission est incroyable, et quand on sait ce qui est devenu Anderson Silva et que c'était quand même au Pride, c'est quand même une soumission qui méritait d'être évoquée. Donc pour moi, il y a ces trois échelons-là en termes de soumission. Et la dernière, c'est un petit peu comme les KO un peu chelous pour la tier list de la semaine dernière avec les KO. Mais là, j'ai presque envie de mettre un peu plus dans le sens les soumissions qui sont, quel est le terme déjà en français ? Tu ne les attends pas et c'est pas censé être possible. Et par exemple, si on doit faire encore une fois un exemple, c'est genre les Ezekiel Choke de Alexei Oleinik. C'est-à-dire que c'est des trucs, normalement, ça ne marche pas en fait. Normalement, ça n'existe pas et le mec t'en cale 3 ou 4 à l'UFC, quoi. Voilà. Pour moi, c'était ça, les quatre axes, les quatre paramètres, les quatre tier listes, quoi.
All right.
Alors... écoutez, commençons dans le dur. Hein.
Allez, hostie.
Écoutez, je me lance sur la quatrième catégorie. Et parlons bien, les Ezekiel Choke de Alexei Oleinik. Pour faire très rapide, en fait, je surkiffe juste pouvoir parler de ça parce que Alexei Oleinik, c'est un gars, il est à 60 combats pro, il me semble, et dans les 60 combats pro, il a 47 victoires par soumission. C'est du délire! Et en plus, il a soumis des noms, hein, c'est-à-dire qu'il a soumis Crocop, à l'UFC, il a un parcours en dents de scie, mais parce que vraiment, il est exceptionnel au sol, mais par contre, s'il n'arrive pas à imposer son sol, c'est un peu compliqué. Et ce gars-là, qui est, t'as l'impression qu'il est immortel, je crois qu'il a 47 ans, un truc comme ça, arrive à placer cette soumission, qui est la Ezekiel Choke, et qui est normalement une soumission que tu places avec un gi, donc avec un vêtement qui est un étranglement sanguin. Et lui, il arrive à la placer à des athlètes professionnels, il l'a fait plusieurs fois. Ça ressemble grosso modo à un étranglement arrière, sauf que tu le fais de devant. Et il est capable de battre les meilleurs athlètes de la planète avec ce truc-là et de manière répétée. Sa dernière, c'était en 2018 contre Junior Albini. Et vraiment, allez voir des best-of de Oleinik juste pour ça, parce qu'il n'y a que lui qui fait ces trucs-là. Il est capable de les faire en plus en partant de debout et tout. Donc voilà, je voulais juste placer ce petit big up à Oleinik pour des soumissions qu'on ne voit jamais à part avec lui, quoi. Voilà.
Bravo, monsieur. Super. Non, moi, je voulais ajouter... vas-y, Manu, t'avais quelqu'un ?
Non, vas-y. J'ai des trucs après, mais vas-y, Guillaume. Je t'en prie.
J'avais monsieur Luke Rockhold. Donc, on en avait parlé... On avait parlé en off il y a quelques semaines.
Remue pas le couteau dans la plaie.
Parce que moi j'adore Luke Rockhold, j'adore vraiment Luke Rockhold, et je voulais souligner son run absolument monstrueux pour qu'il aille vers le titre, où il enchaîne et à chaque fois parfaitement exécuté Tim Butch, Michael Bisping, Lyoto Machida, à chaque fois ce sont des soumissions, mais c'est égal à voir, on a vraiment l'impression que le gars est en démo, alors que Tim Butch c'était à une époque où ça voulait dire vraiment quelque chose de battre Tim Butch et puis Lyoto Machida. Et Michael Bisping aussi, et donc je voulais souligner ça, c'est que c'était un moment où c'était vraiment un serpent, ce Luke Rockhold, et aujourd'hui il tente un comeback, c'est un petit peu plus compliqué pour lui à ce moment-là de sa carrière, mais à cette époque c'était vraiment un cauchemar, et on était à ça, à ça d'avoir en 2018 Luke Rockhold, Jacare Souza. Malheureusement, Jacare Souza s'était blessé.
Après, on l'avait eu au Strike Force, cela dit.
Mais pour
oui,
moi,
mais la revanche, quand les deux étaient dans leur prime, quoi.
Pour moi, Rockhold, c'est un peu le Ronda Rousey. Tu vois, le mec a explosé, qui était là. Et après, il est rentré trop dans sa tête. Où je suis invincible. Je me retirerai
imbattable,
vaincu,
ouais.
Et blablabla. Et qu'il a trop pris confiance. Et qu'à partir de ce moment-là, il commence à manquer de respect. Alors qu'à la base, il était super respectueux avec ses adversaires. Et pareil avec Ronda, où c'est là que ça a commencé vraiment à se casser la gueule. Et voilà. Moi, j'aimerais bien le revoir, revenir sur le devant de la scène et reprendre une bonne carrière, mais avec un mental plus de ses débuts que de l'époque avec Bisping, tout ça, quoi. Mais bon.
C'est vrai que... Ouais.
Ouais, pardon, vas-y.
Non, j'allais juste te dire qu'effectivement, Rockhold, c'est vraiment extraordinaire parce qu'il est connu pour son striking, parce que c'est très beau ce qu'il fait avec ses kicks, ses déplacements, etc. Mais c'est vrai que ça fait plaisir de le citer là parce qu'il est connu pour être effectivement un tueur à gages au sol, et c'est vrai que les gens qui ne connaissent pas très bien forcément les MMA ont tendance à l'oublier, et ça fait plaisir effectivement de pouvoir reparler de son efficacité. D'ailleurs, tu parles de Tim Butch, Guillaume, mais sa soumission contre Tim Butch, c'est un truc de ouf, hein. C'est un triangle inversé qui met en même temps qu'une Kimura, et après un scramble de ouf, quoi.
Extraordinaire, ouais. Vraiment.
Ouais.
Ah, mais c'était dingue.
Incroyable. Moi, dans les soumissions un peu... moi, j'avais plus mis les soumissions un peu what the fuck, tu vois, les trucs...
Ouais.
Il y avait Shinya Aoki contre Yuki Yamamoto. Oui, c'était la première fois que je voyais un twister, en fait, en soumission. Twister, en gros, vous faites partir les jambes de ce côté-là alors que vous emmenez le haut du corps de ce côté-là. Donc, ça fait vraiment ça. Tu tords le corps entier d'un mec. Et pour moi, c'était ouf. Parce que la première fois que je vois ce combat, je ne savais même pas ce que c'était cette technique.
Oh, le twister.
Je ne connaissais pas encore le twister. Et là, je vois ça et je me dis, c'est ouf. Il y en a eu d'autres depuis. C'est une technique qui est quand même très dure à passer, surtout à ce niveau-là.
Ouais.
Et ça m'avait... j'étais comme un ouf après ça. J'ai voulu justement apprendre ce que c'était le twister. Il y a une autre soumission qui est folle. C'était d'ailleurs au Pride Dynamite, donc c'était à la fin de l'année, le 31, le New Year's Eve au Réveillon. Ouais. À l'époque au Japon, il y avait une grosse carte, souvent c'était mélangé entre le K1 et le Pride ou le Dream. Et j'ai David Garner qui a quand même Shinya Aoki, qui est un des meilleurs...
Jiu-Jitsuka du monde.
Grappleur du monde.
En MMA.
Et il a Aoki sur son dos et David Garner décide de regarder la caméra et de faire Hi mom! Et juste où il fait ça, Aoki passe l'étrangle, il perd comme ça. Sûrement la soumission et la défaite la plus teubée du MMA de tous les temps.
Ouais. Non, c'est clair. Là, j'avoue, c'est parfait ça.
C'était pour moi, c'est des soumissions. Ou le twister qui m'a marqué de ouf de Shinya Aoki, ou Garner qui se fait étrangler par Shinya Aoki aussi sur un moment absolument idiotique.
Absolument. C'est vrai. Idiotic en anglais, c'est vrai.
Excusez-moi.
Eh ben, du coup, là, vu qu'on est sur les soumissions what the fuck, il y en a une. Alors celle-là, c'est vrai qu'il faut vraiment aller la chercher, mais... C'est une soumission, je ne l'avais encore jamais vue, et il y en a une autre, mais on en parlera un peu plus tard, de AJ McKee, comme ça aussi. Mais c'est, alors, il faut même que je me... Alors, c'était Nick Pace contre Will Campuzano au Tough 12. Alors là, si jamais il y en a dans l'audience qui l'ont en tête, en mode, ah oui, je vois laquelle, franchement, les gars, vous êtes... prenez notre taf, en fait. Hein. C'est une soumission qui a été inventée par Nick Pace lui-même, apparemment. C'est un mélange de rubber guard, en même temps tu mets ta main dessous, c'est une espèce de gogo plata avec où tu mets un... Voilà, de toute façon j'arriverai pas à vous le décrire, donc si vous êtes curieux, allez voir, c'est Nick Pace, P-A-C-E, contre Will Campuzano au Tough 12. C'est une soumission, vous l'aurez jamais vue avant, vous la reverrez jamais après, et il a quand même réussi à soumettre son gars avec ça dans The Ultimate... Enfin, c'était un UFC... qui était où deux coachs de Ultimate Fighter se la donnaient à la fin, et donc c'était quand même vraiment dans un vrai UFC, c'était pas dans une univers, dans une, je vais y arriver, dans une organisation secondaire ou quoi que ce soit, et c'était vraiment impressionnant. Voilà, ça y est, j'y suis. Donc c'était Nick Pesce-Campuzano. Et pour aller aussi très vite sur ce que j'avais en stock, il y avait... ah ouais, tiens, une qui est marrante, c'est Frank Mir contre Pete Williams. Et celle-là, oui. Je l'avais complètement oubliée. C'est, je ne sais pas si vous vous souvenez du combat entre John Jones et Glover Teixeira, où John Jones, à plusieurs reprises dans le combat, il place, je crois que c'est un moitié en overhook, où il piège le bras de Teixeira et il essaie de lui péter dans ce sens-là, en fait. Oui. Et ben, Frank Mir a réussi à faire ça à un mec au sol en étant sur son dos. Et c'était vraiment impressionnant. Et donc, c'est Frank Mir contre Pete Williams. Et franchement, je pense pareil que vous n'aurez jamais vu cette soumission-là. Donc, c'était dans un des premiers UFC aussi. Donc, voilà, je place mes petits pions ici. Qu'est-ce que vous avez, les gars, histoire qu'on finisse avec cette KT.
Frank Mir, absolument exceptionnel aussi lorsqu'il casse le bras de Team Sylvia.
Oh là là. De Team Sylvia, ouais, absolument.
Et je veux dire, un mec de cette taille, avec un jujitsu de cette qualité, il ne faut pas oublier aussi qu'il était champion. Il a un accident de moto, il meurt presque. On lui dit qu'il ne marchera plus. Non seulement il marche, mais il revient dans l'UFC, il reprend la ceinture. Quelle classe.
Parcours de fou.
Ouais,
grave. Non, et puis en plus, il a eu des moments légendaires, c'est vrai. Ouais. Même après, il reprend la ceinture. Il fait même quelques années plus tard le combat contre Nogueira qui se finit d'ailleurs en épaule pétée aussi. Enfin, Frank Mir, il tombe contre des mecs qui sont durs au mal, mais il est connu pour être un briseur de bras invétéré. Mais bon, bah, si les mecs tapent pas, les mecs tapent pas, quoi.
Et aussi cette fameuse clé de jambe qui passe sur Brock Lesnar.
Je
l'avais oublié celle-là, mais c'est comme ça qu'il a souhaité la bienvenue à Brock Lesnar en lui donnant une défaite dès son arrivée. Brock Lesnar qui plus tard aura sa petite revanche, mais quand même.
C'est vrai, c'était à noter. Les gars. Let's go. Ouais, voilà, parce que sinon on aurait pu parler vite fait de la vente flux choc de Lovin Saint-Preux, mais comme c'est un peu le même principe que l'Ezekiel de Olenik. Désolé, c'était un week-end long, désolé les gars. Mais voilà, c'est le même principe, c'est-à-dire que c'est des soumissions, la vente flux choc qui normalement ça ne marche pas à ce niveau-là. C'est des trucs que vous les verrez quasiment jamais, à part pour ce gars-là. Donc là, c'est Lovin Saint-Preux et sa vente flux choc. Donc allez juste voir à quoi ça ressemble. C'est un truc où normalement il est censé, visuellement t'as l'impression qu'il est dans une position désavantageuse où le mec le tient à moitié en guillotine, mais il est du bon côté et en fait le mec écrase les arrivées sanguines avec son épaule en étant en position de dessus. C'est assez impressionnant. Il y a que lui qui fait ça. Voilà. C'est bon pour la quatrième, les gars. We can go. À moins que vous ayez d'autres trucs.
Ça va.
C'est bon.
Ça va, Imhotep. Ok. Eh ben écoutez. Avançons sur la troisième catégorie. Bah pour celle-là, justement, pour faire la parfaite transition, moi j'avais du coup le premier twister à l'UFC de Leonard Garcia, enfin de Korean Zombie contre Leonard Garcia. Voilà, typiquement, voilà, je le place dedans parce que c'est certes, c'était pas pour un titre et c'était pas dans un contexte incroyable, mais c'est quand même une première et une première c'était... historique. Donc,
Excuse-moi, mais c'était à l'UFC ou au WEC ?
Non, c'était à l'UFC, il me semble. Oh là là, tu me fais douter.
Je doute. Non, mais je doute, mais je pense que t'as raison.
Mais ouais, je tape Manuel Ferrara dans ma barre de recherche.
Là, peut-être mauvaise. Désolé.
Attendez.
T'as peut-être pas vu ce que tu voulais voir, mais bon.
Attendez. Oh.
Non, en vérité, il a juste mis M. Il a pas tapé Manuel Ferrara. Il a mis M. Il y a Manuel Ferrara fait ça. Manuel Ferrara fait machine. Manuel Ferrara fait truc. Tu sais toute la liste. De l'historique.
Je l'ai échappé belle, putain. Non, c'était à l'UFC, les gars. UFC okay. Seattle.
Ok. Ah. J'ai douté.
Mais voilà. Donc, en tout cas, c'était parfait parce que, comme tu l'as bien décrit déjà la soumission, là, les gens ont peut-être été déjà à voir à quoi ça ressemblait. Là, il l'a fait dans un combat en plus de fou contre Leonard Garcia. Et là, il arrive à terminer en point d'orgue le combat sur cette soumission qui est rareissime. Je crois qu'il y en a eu deux ou trois dans l'histoire de l'UFC. Donc voilà, là c'était obligé de la caler.
Leonard Garcia, quel combattant c'était. Tous ces combats, c'était des guerres. Et le truc qui est très bizarre, Leonard Garcia, il combattait, il s'entraînait, il était dans l'UFC, il a fait WEC, tout ça. Mais à côté, il avait un side job. Est-ce que vous connaissez son side job ?
Non.
C'était l'assistant de Chuck Liddell. C'était lui qui lavait les fringues de Chuck Liddell, qui les remettait.
What ?
Ouais. Il y a une vidéo où ils suivent Chuck Liddell et il explique qu'il était, il s'entraînait avec dans la même team, tout ça, mais pour se faire de l'oseille à côté, il était devenu l'assistant de Chuck Liddell et il allait faire des courses, il allait, il lavait le linge.
Ah, c'est incroyable!
Ouf!
Purée!
Ouf! Ouf! Je vous retrouverai la vidéo, je vous enverrai ça, vous allez.
Ah ouais!
Halluciner.
Ah, c'est génial!
Et tu vois, et il est super, le mec, il était bonne ambiance et il est tellement heureux d'avoir ce job avec Chuck Liddell, qui est non seulement un de ses mentors, mais son héros et son employeur, il est en kiff, quoi.
Oh, putain, ça, c'est vraiment beau comme histoire. Ouais. Ah bah, alors là, ça y est, refait. Parfait. Bon, bah, les gars, Leona Garcia, ouais, voilà. De toute façon, ce qui est bien, c'est que visiblement, que vous alliez voir, que vous cherchiez des infos sur sa vie perso, que vous alliez voir ses combats, vous serez pas déçus. Ça fait plaisir. J'avais aussi dans cette catégorie, les gars... Masvidal contre Toby Imada pour et je crois que c'était au Bellator. Et en gros, c'est un des premiers sur la scène, vraiment sous le feu des projecteurs, un des premiers triangles inversés, alors que le mec qui prend le triangle inversé est debout. Donc c'est un visuel qui est assez extraordinaire à regarder. Et rien que pour ça, et en plus, voilà, contre Romes Vidal, qui était à l'époque qui était déjà un bon prospect, c'était un jeune prospect. Et la soumission est vraiment impressionnante parce que donc, il est debout, Masvidal. Le gars est dans une position un peu chelou au-dessus de lui. Il arrive à placer son étranglement, son triangle inversé. Masvidal est crucifié d'une façon super chelou, mais il n'arrive pas à se sortir. Et en gros, d'un moment, boum, il s'écrase au sol parce que le mec a réussi à finir et à verrouiller son truc.
Ouais, je me rappelle de ça.
Et ouais, vraiment, allez voir la soumission parce que c'est assez. Bah, c'est vraiment c'est rarissime, quoi, comme genre de manière d'être enchevêtré entre deux combattants, quoi.
Ouais.
Alright, Rusty.
Ouais, je perds tous mes mots là ce soir.
Mais oui, non, mais c'est bizarre.
Moi, dans cette KT, c'est une soumission qui n'est pas.
Bellator.
Qui n'est pas exceptionnelle dans le sens où c'est une super soumission, mais c'est quand même une des soumissions les plus utilisées. C'est donc un Sangakujime, un étranglement en triangle de Ned Diaz sur Kurt Pellegrino, où. Il le met en étranglement et il est tellement sûr de finir qu'il commence à faire des doigts à la caméra, il commence à flex, il sait qu'il a gagné. Il est pas, il a mis le mec dans la position, il sait que là c'est que quelques secondes, il a juste appuyé sur la tête, finir. Mais le mec il célèbre la victoire même avant d'avoir vraiment fait taper le mec, quoi. Et pour moi,
c'est
ça aussi, c'était...
Diaz, ça.
Ouais, c'est tellement... Et c'était Ned Diaz jeune. C'est avant qu'il parte vraiment, que son interne Nick Diaz sorte. Tu vois ce que je veux dire? C'était à l'époque, il était encore très respectueux de tout le monde. Il serrait les mains, il disait bien ouais. Et là, boum, il sort un flex, les doigts à la caméra. Et il gagne et il fait taper le mec ensuite.
C'est tellement le genre de visuel qui te fait devenir légendaire, ça. Parce que c'est vrai que ça, c'est un truc que j'aime beaucoup, c'est voir quels sont, tu sais, les moments charnières qui sont parfois même pas dans les combats directement, qui font que les gars deviennent légendaires. Et bah, typiquement pour Ned Diaz, la fameuse photo où, et je crois que c'est après McGregor, où il est comme ça, il se rapproche de la caméra, il est en sang et tout, et les mecs ont même fait une murale à Stockton. Bah ça, c'est vraiment, ce sont des visuels hyper marquants qui font que tu deviens légendaire en plus de tes performances, de ce que tu fais, etc. Et typiquement ça en fait partie. Là, on l'a, du coup, bah, je pense que Manu, tu l'as en tête, Guillaume aussi, ce moment où on le voit, il est sur son dos, il fait « Ouais, pas !» Enfin, tu le vois et ça fait partie de Ned Diaz pour les gens aujourd'hui.
Pour toujours,
franchement, c'est vrai que c'est cool que t'en parles, je l'avais même pas, mais cette soumission, c'est tellement lui, in a nutshell, en quelques secondes, c'est parfait, quoi.
Et pour l'histoire, cette photo de Nick Diaz, c'est mon pote Elliot qui l'a prise.
Mais non.
Ouais.
Oh là 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 là, mais beaucoup trop dans le game.
Ah, c'est un
incroyable.
Bon gars.
Elliot, est-ce que c'est
le gars.
Est-ce que c'est ton pote qui était là lorsque Nick Diaz a mis une slap à Dana White?
Non, c'était pas lui, non. C'était pas lui.
Ok.
D'autres photos, les trois quarts des photos qu'il y a à l'Apex, que tu vois quand tu te balades dans les couloirs, les murs, tout ça, c'est mon pote qui les a prises. Les trucs de McGregor, toutes les photos de McGregor qui sont affichées là-bas, c'est lui. McGregor Mayweather, c'était lui. Et il a trop
Il a
pris de
pas mal
level.
bourlingué.
Ouais, il a trop pris de level dans la photo.
Ah, c'est beau.
Oui. Propre.
Alors, qu'est-ce que. Bah, moi, sur cette troisième catégorie, j'en avais deux autres petits. Le premier, c'était, on l'a évoqué vite fait, du coup, Ryo Shonan contre Anderson Silva.
Oui.
Et la raison pour laquelle je trouve que c'est stylé, c'est que, au-delà du fait que c'est Anderson Silva qui se prend une soumission, et c'était au Pride, il me semble, contre Ryo Shonan, qui est un bon combattant, mais qui n'était pas forcément très renommé autour du monde. Mais c'est la manière en fait dont il se fait soumettre Anderson Silva. On sait que lui c'est le roi des coups que tu vois jamais venir, des trucs
Ouais.
what the fuck, ça vient en Wing Chun, ça vient en les Steven Seagal kick, tout ce que tu veux.
Ouais.
Et ben là, c'est lui Anderson Silva qui s'est fait avoir par un gars qui tente un truc de nulle part. En gros, c'est une mise au sol et en même temps le mec part sur une clé de
Sur une clé de
genou
jambe. Ouais.
et en gros, il le met au sol avec ce qu'on appelle en gros, je sais plus
C'est
comment
une
ça
attaque
s'appelle
en
en japonais.
ciseaux au judo. Au
C'est
judo,
ça.
ça a un nom, je ne me rappelle plus du tout. Parce
Ouais,
que je
voilà.
crois que ça avait
Moi non
été
plus.
interdit après parce que c'était trop dangereux pour les genoux. Mais à la base, c'était une
Ok.
technique utilisée en judo, mais qui avait été interdite ensuite en compétition, en tout cas.
Oh, d'accord.
Je
Putain,
ne
bah,
me
je
rappelle
savais pas,
plus
mais en
du
tout
nom.
cas, effectivement. Mais vous allez voir, de toute façon, vous tapez Ryo Shonan, Anderson Silva Shonan, comme ça se prononce, Chonan. Et en gros, vous allez voir, le mec se jette jambe en avant, genre tacle deux pieds décollés du sol dans les genoux d'Anderson Silva, le fait tomber. Et Anderson Silva, au moment où il est déséquilibré, où il tombe au sol, le mec a déjà verrouillé la clé de genou et Silva hurle de douleur. C'est impressionnant. Et c'est un move pareil qu'on ne voit vraiment quasiment jamais. Donc c'est notable. Et la dernière que j'avais pour cette troisième caté, pour moi, c'était Ryan Hall contre BJ Penn. Simplement d'ailleurs, un petit peu même délire, parce que le mec part
Très
en bah, ce qu'on
triste.
appelle Imanari Roll. C'est-à-dire en gros, le mec, il veut aller chercher ta jambe. Pour te faire une soumission, et on vient de parler du ciseau de Ryo Shonan, bah en gros ça c'est une autre manière un peu what the fuck de plonger dans les jambes, c'est tu fais en gros tu te mets sur ton dos, tu roules comme une toupie Beyblade sur son dos, et en gros tu arrives, t'es déjà enchevêtré dans les jambes de la personne, et là normalement si t'as réussi ce fameux Imanari Roll qui a fait que t'as roulé jusque dans les jambes, tu t'es toi-même mis dans la parfaite position pour terminer ta clé de genou, ta clé de talon, quoi que ce soit, et là il l'a fait, Ryan Hall qui est un prodige jiu-jitsu brésilien, à BJ Penn, qui lui-même était en gros légendaire pour être un phénomène absolu du sol dans l'UFC des années genre 2005. Donc c'était un beau passage de flambeau, une soumission extraordinaire en quelques secondes finalisée parfaitement direct. Voilà, je voulais en parler aussi.
Très bien, très important, Big Rusty. Moi, j'en avais qu'une seule en troisième, et vous allez me dire blasphème. Pourquoi cette soumission? Moi, c'est pour le côté visuel et c'est pour rendre hommage à l'ensemble
Tu
de
peux
sa
pas
carrière
la
à ce monsieur.
mettre
C'est
maintenant.
Damien
Tu peux.
Maia.
Non,
Ah, Damien Maia contre Rick Story.
je rigole. Ah oui.
Le neck crank de Damien Maia
Oh, oui.
contre Rick Story avec les petites droplettes de
Parce que
sang
là,
là.
c'est humiliant. C'est
C'est,
humiliant,
elle
un
est
neck crank.
terrifiante.
Les neck cranks, c'est en fait, c'est une douleur atroce et tu sais que pendant une semaine, tu vas avoir le cou. Tu vas pas tourner ta tête. Les neck cranks, c'est les pires, les pires. Je préfère me faire étrangler et pass out que me prendre une neck crank parce que c'est non seulement ça fait mal sur le moment, mais tu sais que pendant une semaine, tu as la minerve.
Ouais, puis en plus, ouais, ça peut même. Je sais pas quelles sont les répercussions que ça peut avoir, mais je pense que du coup, si ça fait aussi mal direct et pendant la semaine d'après, je sais
Ouf.
pas si ça peut vraiment te faire des dommages. Je pense que oui, quand même, mais à très long terme. Mais instinctivement, je dirais quand même que ça paraît pas forcément terrible pour les cervicales, des trucs comme ça,
Ah ouais,
quoi.
immonde.
Ouais, et donc, vu effectivement la manière dont Rick Story crachait du sang, bon, c'est clair que ça serait pas.
Rick Story, mec, le mec, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Il avait tellement encore un mec a explosé et puis du jour au lendemain.
Ouais. Mais bon. Non, mais c'est vrai que pour le coup, il s'est pris cette soumission-là. Et peut-être qu'un jour, on fera les tier list des meilleurs combos. Mais c'est la finalisation qui se prend contre
Ah
Donald
ouais.
Cowboy Cerrone. Oh,
Ouais.
c'était mais incroyable.
Welcome to
Incroyable.
Tekken, c'est clair.
C'est
Ouais.
complètement fou. Mais ouais, c'est vrai que Rick Story, dur. Dur, dur, dur. T'avais
Ouais.
quelque chose, toi, Manu, dans le troisième?
Bah,
Il est chaud.
j'avais parlé de Ned
En
Diaz et
plus.
de. Écoute,
Ouais.
dans le même esprit que Ned Diaz, il y avait. Attends, j'ai noté ça. C'est. Bah, attends, j'avais noté ça. c'était aussi Inoue Aoki qui soumet Mizuto Hirata au Dynamite, un autre Dynamite
oui,
aussi.
Je l'ai vu passer aussi,
et
celle-là.
La soumission est atroce. L'autre, il est sur le ventre, il a le bras dans le dos et il lui juste remonte et lui pète l'épaule.
Oui, c'est vrai.
Et là,
c'est vrai.
Et lui pète l'épaule. Et là, tu le vois se retourner. L'arbitre retourne le mec. Tu vois l'épaule qui est vraiment dans une position pas normale. Et Shinya Aoki, il faut savoir que même si c'était un des plus grands grappleurs, c'était quelqu'un qui était très sensible et aussi qui avait des mood swings qui pétaient les plombs assez facilement.
Ouais.
Et là, il se relève et pendant que l'autre, il est en train d'agoniser au sol avec une épaule éclatée, il lui met un gros doigt dans le visage comme ça. Il lui fait ça. Et après, ils sont obligés. Il a pris une amende à cause de ça, je crois, à l'époque.
Ouais.
Et ça, c'était ouf. Ouais. Et ce qui était assez bizarre, c'était que avant ça, à l'époque, il faisait vraiment pour chaque combattant une backstory et tout. Et il le montrait avec sa famille, super clean, super. Il s'entraîne comme s'il s'en. Et là, il casse le bras du mec, il lui fait des gros doigts dans la gueule. C'était
vicieux. Ouais. Ouais, et là, il est connu pour être salement vicieux, Shinya
Aoki.
Ok. Eh ben, les gars, hop, on peut avancer vers la deuxième. La deuxième, du coup, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Perso, moi, j'avais Nick Diaz contre Takanori Gomi, parce que le combat au Pride est exceptionnel. Oui. Exceptionnel, franchement, allez le voir. Et que Takanori Gomi et Nick Diaz sont dans leur prime à ce moment-là. Ils sont jeunes, mais ils sont déjà jeunes mais violents. Et franchement, le combat est incroyable. Et la soumission, bah, du coup, c'est une gogo plata qui est rarissime en MMA. Et d'ailleurs, il faut savoir que Nick Diaz, pendant ce combat-là, avait tellement... Donc, ils ont fait ensuite des tests anti-substance illicite.
C'est pour ça qu'elle n'a jamais existé.
Oui. Voilà, et en gros, il a fait ce combat-là et, les médecins, ceux qui ont fait les tests anti-substances, ont estimé qu'il avait tellement de weed dans le sang, grosso modo, qu'il était probablement high, donc probablement perché, quand il combattait Takanori Gomi et quand il a placé cette gogo plata de l'enfer. C'est légendaire.
Ouais, il faut savoir, c'est pour ça que tout à l'heure je disais que même après le combat, c'était pas fini parce qu'ils ont annulé la victoire
de
Nick Diaz. Et il faut savoir que c'était puni au Pride, l'usage de fumettes, mais pas l'usage de stéroïdes. Que dans leur contrat,
c'est extraordinaire.
Dans leur contrat, c'était pas genre, ça disait pas le droit aux stéroïdes, ça disait, vous avez le droit d'utiliser les stéroïdes.
C'était les termes exacts, c'était on ne testera pas pour les stéroïdes.
C'est ouf, c'est ouf de dire ça. Et c'est aussi pour ça qu'à l'époque, les catégories de poids du Pride étaient quand même différentes des catégories de poids dans l'UFC. Parce qu'à l'époque, la majorité des fighters, ils venaient avec leur vrai poids. Ils faisaient pas des cuts.
C'est ça.
Ils faisaient pas des cuts comme dans l'UFC pour être le plus balèze de la catégorie la plus basse. Par rapport à leur poids, eux, ils arrivaient tellement géchard qu'ils arrivaient au poids de leur vraie catégorie, leur catégorie naturelle.
Ouais.
C'est ouf.
Ouais. Ah, c'était un autre temps, ce Pride. Hein.
Je te jure. Et Takanori Gomi, qui était à l'époque un de mes combattants préférés, mais qui éclatait tout le monde. C'est ça, ce que Nick Diaz faisait, Nick Diaz qui avait déjà un nom. Notamment après son combat, le KO contre Lawler, tout le monde a commencé à savoir qui était Nick Diaz finalement. Et là, il avait un nom, mais la grosse star, c'était Gomi. Et Gomi qui se fait gommer au Japon par un mec, et en plus, t'apprends que le mec, il était high.
Ça la fout mal.
C'est pas bien passé au Japon. C'est pas bien passé au Japon.
C'est vrai, purée. Bah, encore un autre moment légendaire pour le coup de la carrière des frères Diaz, parce que il est connu pour ça de toute façon, récidiviste. Mais d'ailleurs, même à l'UFC, c'était après quel combat du coup qui s'est fait choper par la patrouille et après que le Nevada la commission du Nevada a voulu lui mettre genre 5 ans
C'était pas contre Georges Saint-Pierre, je suis pas sûr, mais c'était pas le combat contre Georges Saint-Pierre?
Ah, c'est possible, hein.
Ou le combat contre Anderson Silva.
Ouais, je pense que c'était Anderson.
Parce que deux, ils se sont fait choper
avec
quelque chose.
Anderson pour stéroïdes et Nick Diaz pour la weed. Effectivement.
Ouais. Moi, dans cette catégorie, j'aimerais faire un gros flashback. C'est UFC 4.
Okay.
Royce Gracie qui combat le monstre Dan Severn.
Ouais.
Il faut savoir que Royce Gracie, pour la petite histoire, il gagne UFC 1, UFC 2, l'UFC 3, premier combat, il combat contre Kimo. Gagne le combat, mais Kimo lui fait tellement mal qu'il ne peut pas continuer ce soir-là.
C'était ça, ouais.
Du coup, Kimo, il se la joue de ouf en mode « j'ai perdu, mais j'ai quand même gagné parce que moi, je pourrais combattre là, mais lui, il ne peut pas. » Et gros comeback de Royce Gracie. Après ça, il revient et il combat un des mecs qui restera un des pionniers du MMA qui s'appelle Dan Severn, un gros lutteur qui fait deux fois la taille de Royce Gracie, un monstre, une machine.
Ouais, vraiment.
D'ailleurs, MysterX77 qui dit Dan the Beast, il l'appelait la bête.
C'est vrai.
Pour les fans de One Piece, c'est Kaido le mec. Et là, Royce Gracie est au sol avec lui et le soumet. Et personne n'a vu ça venir, quoi. Personne pensait qu'un mec de cette taille, parce qu'on rappelle qu'à l'époque, il n'y avait pas encore les catégories de poids, il n'y avait pas toutes les règles qu'il y a maintenant.
Ouais, c'est ça.
Et Royce Gracie qui soumet Dan Severn, pour moi, et à l'époque, je vais dire j'étais là, mais je n'étais pas là en live, mais je l'ai vu à l'époque où c'est sorti, parce que je suis vieux, et ça nous a fait péter le crâne, parce que pour nous, déjà, Royce Gracie gagne UFC 1, UFC 2, bon, l'UFC 3, il se passe ce qui se passe. On se dit, le mec, il est ouf, mais là, il combat un mec, on parle d'un autre type de mec.
Ouais, ouais. Ben, c'est ça, parce que, en fait, c'est moi, j'avais... On pourra peut-être les mettre après dans la catégorie Golden, on verra, mais c'est vrai que moi, j'avais aussi Royce Gracie dans la catégorie Golden, dans le sens, même pour l'ensemble de son œuvre, pour les premières soumissions qu'il a mises à l'UFC, parce que ça a changé littéralement le MMA à jamais.
À jamais.
Et c'est vrai que...
Les arts martiaux
ben,
à jamais.
Les arts martiaux, absolument, les arts martiaux à jamais. C'est
les
pour ça
films,
que
les arts martiaux, les films de combat, le tout à jamais.
Ouais, parce que un mec qui est arrivé et qui pesait, je crois, à l'époque 75 kilos, un truc comme ça, est arrivé au moment où justement... D'ailleurs, c'est marrant, c'est symbolique que tu aies commencé le podcast comme ça, Manu, parce que du coup, il est arrivé à un moment où c'était... Quel est le meilleur des arts martiaux? Ouais, mais c'est les karatékas, forcément, de toute façon, ils vont niquer tout le monde parce qu'ils sont trop rapides, trop vifs, machin. Ouais, mais les lutteurs, machin, machin. Et ben là, t'as un gars qui est arrivé, open weight. Tout le monde arrive avec ce que tu veux. Il y avait des gars qui pesaient 250 kilos, etc. Il arrive avec ses 75 kilos tout mouillé et il soumet tout le monde, tous les styles,
je te rappelle qu'à
sans
un moment,
aucune difficulté.
Il soumet même Remco Pardoul à l'UFC 2, qui était un judoka, donc à un haut niveau.
Oui, c'est ça.
Un judoka autrichien, je crois qu'il était autrichien, à un haut niveau, mais surtout qui était vraiment énorme. Et il le soumet facile.
Et c'est là, effectivement, qu'il y a eu un avant-après, parce que le nombre de combattants pro, les gars, qui ont dit « Moi, c'est une fois que j'ai vu les cassettes de Royce Gracie à l'UFC que je suis devenu combattant, que je voulais devenir le meilleur du monde », c'est un impact qui est inimaginable sur le MMA même d'aujourd'hui.
Bien sûr.
Donc Royce Gracie, et c'est vrai que c'est important que tu soulignes aussi contre Dan Severn pour toutes les raisons que tu as évoquées, parce que c'était un lutteur monstrueux qui savait ce qu'il faisait quand ça allait au sol, etc. Et ben Royce Gracie, c'est le gars qui était capable de battre tout le monde à cette époque-là sans trembler. Il allait au charbon, en plus il venait avec son gi, enfin c'était tout... vraiment c'est ce qui a fait la légende de l'UFC.
Tout
quoi.
En sachant lui-même que de tous les Gracie, il est loin d'être le meilleur. Il n'est pas numéro 1, il n'est pas numéro 2. La seule raison pour laquelle Hickson n'avait pas combattu pour la famille Gracie, qui à l'époque était le numéro 1 de la famille Gracie, c'est parce qu'il ne pouvait pas le tenir. Il ne pouvait pas le tenir, le mec. Il ne pouvait pas imposer des trucs. Il ne pouvait pas dire c'est comme ça. Deuxième raison, c'est qu'il voulait montrer que tu n'es pas obligé d'être le plus fort, le plus lourd, le plus balèze pour utiliser le Gracie Jiu-Jitsu
pour gagner. Et l'imposer contre tous les autres styles.
Il faut savoir aussi, pour ceux qui ne savent pas, il y a une différence entre le Gracie Jiu-Jitsu et le Jiu-Jitsu brésilien. Le Gracie Jiu-Jitsu, c'est un peu plus proche du Jiu-Jitsu traditionnel dans le sens où il y a des coups. C'est pas le jiu-jitsu brésilien, c'est vraiment devenu un sport. Et maintenant, il y a des écoles Gracie-Barra, tout ça, qui font que ça reste sur le sport du jiu-jitsu brésilien. Mais le Gracie-Jiu-Jitsu, c'est pas que le sol. C'est des projections, c'est des coups de pied, des coups de poing aussi, qui amènent
Et c'est.
souvent, qui sont set up pour amener au sol.
Ouais. Et c'est effectivement pour ça d'ailleurs que bah, les combattants précisent. Par exemple, c'est vrai que même les frères Diaz qui viennent du Gracie Jiu-Jitsu, ils le précisent généralement. Bah, ils disent pas ouais, je fais du Jiu-Jitsu, ils disent je fais du Gracie Jiu-Jitsu. C'est vraiment. Je savais même pas, tu vois, ce que tu viens de dire, Manu. Mais effectivement, du coup, ça prend tout son sens par rapport à la fierté qu'ont certains combattants de faire du Gracie Jiu-Jitsu et pas juste du BJJ, quoi. C'est vrai. Alors. Oui, et putain, on approche déjà de 22 de l'heure fatidique. On n'est
Putain, ouais,
même
je
pas à
suis
la moitié
désolé,
de
ouais,
notre
on
truc.
avait dit.
Mais tant mieux.
Vas-y, on
Bon,
speed up.
honnêtement.
J'ai des histoires trop reloues et trop longues, désolé, les gars.
Ah non, mais en fait, mais moi justement, bah, je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Mais à la limite, comme de toute façon, moi, je préfère largement qu'on prenne le temps pour faire les choses et qu'on puisse
C'est
justement
vrai.
faire des diversions sur absolument tout, parce que c'est ça qui est vraiment marrant. À la limite, je vous proposerais presque de faire la partie 2, où du coup on aurait tout notre temps pour tout évoquer la catégorie Golden et la fin de cette KT, sur la semaine prochaine.
Let's go. Comme vous voulez.
Hein.
Ouais. Dis Guillaume, t'en dis quoi?
En plus,
On en a marre de tes magouilles. Non,
c'est
non,
bien. Non,
non,
mais on voit que tu essaies d'échapper. Tu as peut-être un truc claqué pour la Golden. Tu veux pas la finir ce soir. C'est pas grave. Mais.
non. Ah ouais!
Non, blague à part, je suis dans le même cas que Rusty. Parce
Non,
que
non, je
Manu,
sais, je sais.
sûrement t'as connu ça en plus aujourd'hui. It's
Bien sûr.
Father's Day
Je
today!
sais, et je sais, et moi j'emmène les
Father's
enfants
Day.
pour Father's Day, je les emmène voir le film Lightyear cet après-midi, donc
Oh,
je
mais moi, on
comprends
me
tout
dit
à fait.
bien Buzz l'éclair pour les Français.
Oui, Buzz l'éclair,
Francophone.
pardon.
Mais moi, il me tente bien ce film-là.
Ah, il a l'air fort. Il y a des pays qui ont annulé la sortie de Lightyear parce qu'apparemment,
Ouais.
dedans, il y a
Un baiser.
deux femmes qui s'embrassent, je crois, ou deux hommes qui s'embrassent.
Ah ben
Je
moi j'ai
sais pas
entendu
trop.
les deux. Moi j'ai entendu il y
Ouais,
a
ok.
un
Ouais,
baiser entre deux femmes et mais alors j'ai entendu que donc là c'est vraiment
ouais.
aucune certitude mais que Buzz l'éclair lui-même était visiblement gay dans ce film.
Ouais.
Quoi? Ouais.
En revanche, vous
Ouais.
pouvez regarder mes
Putain
films dans ces pays, donc vous inquiétez pas, c'est pas grave.
j'en peux plus. Putain c'est ouf, ok. Ah ouais, moi je pensais que c'était des personnages secondaires et pas Buzz l'éclair.
Bah, je crois, moi j'ai vu que c'était Buzz l'éclair, mais les sources ne sont pas sûres. Bon, ce serait dans l'air du temps, hein. C'est
Oui.
bien
Bah,
vu de le faire en ce moment.
Disney, de toute
Mais par contre,
façon, ils sont à fond dans le wokisme, donc.
ouais,
Ouais,
c'est
non,
pour
c'est
ça.
clair. Ce qui est ouf, c'est que bah, j'ai regardé les estimations de box-office Mojo et bah, ils sont que deuxième du box-office, hein, Buzz
Ah.
l'éclair.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est
Ah ouais?
sorti?
Bah, rien du tout qui est sorti. Genre, en
Bon.
gros, pour ce week-end, il y a un Jurassic Park, deux Buzz l'éclair avec 51 millions, trois Top Gun
Ah
avec
ouais.
44 millions.
C'était ma question. Ok, Manu, est-ce que tu peux nous donner ton ressenti? Parce qu'avec Guillaume, on l'a
Et
tellement
ouais,
kiffé. Qu'est-ce que t'as
incroyable.
pensé de Top Gun? Ouais, ok.
Je l'ai pas encore vu.
Oh! Attends, qu'est-ce qui est bien incroyable? C'est toi, Guillaume? Tu l'as pas
Moi, j'ai
encore
j'ai
vu!
pas eu le
Ouais.
temps. J'ai pas eu le 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 temps. Mais je vais y aller cette semaine. Il faut que j'emmène ma meuf de toute façon.
Ah, t'es invité, vous n'êtes
Oui,
pas invité.
bah
Oui,
voilà.
parfait.
Ouais, j'ai
Parfait.
pas eu le
Oh
temps.
là là
Voilà.
là là. Oh, vous allez
Ouais.
kiffer.
Tout le monde me dit que c'est un
Oh.
gros kiff. Tellement, tout le
Mais
monde me dit que c'est un gros kiff.
c'est dingue. C'est
C'est un
dingue de se
moment de
dire que Tom
cinéma.
Cruise, à cet âge-là, peut faire le meilleur film de sa carrière, quoi.
Ouais. J'étais enfant quand j'ai vu le premier. C'est ça qui est fou, de me dire qu'il y a
Ouais, c'est
plus
énorme.
de 30 ans. Il y a quoi, 30 ans? Je sais même pas. Plus sûrement que le premier est sorti. Attends, je vais
Ouais, je
ouvrir
crois que
ça.
c'était 86, un truc comme ça, il me semble.
Let me check. Let
Imagine.
me check.
Top
Ouais,
Gun.
86 le premier,
Waouh,
ouais.
c'est ouf.
Ouais.
86,
Putain, et
les
le
gars,
gars est
j'avais 11
toujours
ans, j'ai
en forme,
46
quoi.
piges.
Putain.
Mais ça, c'est incroyable quand
C'est
même.
ouf. C'est
Et
ouf.
non seulement t'avais cet âge-là quand il a fait le premier, Manu, mais en plus, là, lui, Tom Cruise, qui fait Top Gun Maverick aujourd'hui en 2022, c'est toujours lui qui fait les cascades, c'est toujours lui qui veut faire le moins d'effets spéciaux numériques possible. Et franchement.
J'ai vu une anecdote de Matt Damon. Matt Damon, il
Matt
parlait,
Damon.
c'est l'acteur Matt Damon, il dit, il se préparait à faire une cascade dans un de ses films. Et du coup, il va demander à Tom Cruise des conseils. Il dit Tom Cruise, il lui dit, écoute, bah, quand j'ai fait tel film, je suis allé voir le spécialiste de la sécurité des cascades, nanana, et je lui dis, voilà, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça, qu'est-ce que t'en penses? Le mec, il lui dit, ah non, non, t'es un fou, faut pas faire ça, c'est trop dangereux. Matt Damon, il lui dit, bah, qu'est-ce que t'as fait? Et bah, je suis allé voir un autre spécialiste de la sécurité jusqu'à ce qu'il me dise oui, quoi. Le mec, il s'en bat les couilles. Il a dit, ouais, je le fais, c'est pas grave.
Oh putain.
Ouais, mais
Non, c'est fou.
Tom Cruise, les gars, ce qui est, moi, ce que je. C'est vraiment peut-être un des acteurs que je respecte le plus en termes de. Il veut faire les films qu'il veut faire et il n'en démordra pas, il les fera comme il veut les faire et les résultats sont là pour prouver qu'il a raison. Et c'est vrai que toutes les anecdotes, mais quand il fait un film avec des magiciens, en gros, il a appris le close-up, donc la magie où tu fais tourner tes cartes, tu la fais apparaître de machin, c'est super chaud, il va être extrêmement adroit. Et ben il va s'entraîner, genre pendant. Et c'est ce qu'il avait fait, donc je sais plus quel était le film en question. Et ben en gros, il s'est entraîné à faire du close-up pendant 5 mois pour que même si c'est un zoom sur la main et machin. Bah, qu'il puisse lui-même faire les tricks et qu'ensuite, du coup, les mecs peuvent faire ce qu'ils veulent avec la caméra. Il est appris à devenir. Il est devenu pilote d'hélicoptère spécialement pour pouvoir tourner dans les films d'action certaines scènes. Quand il fait de la chute
C'est ouf.
libre, il l'a fait lui-même dans les films Mission Impossible. Quand il fait des
Ouais.
cascades sur le Burj Khalifa ou enfin, en tout cas, une
L'avion.
tour à Dubaï, il fait ça lui-même. L'avion, il le.
L'avion.
Les gars, mais Tom Cruise, c'est.
Qui est-ce qui veut décoller, accrocher sur le côté d'un avion, les gars? Pas moi. Pas moi.
Mais ouais.
Incroyable.
Et quand il s'est
Incroyable.
pété la cheville, quand il tombait, il a
Mais
sauté
oui,
d'un
dans
point, d'un toit à un
Fallout.
autre dans Fallout, Mission Impossible, et ben la scène qui est dans le film où en gros il saute d'un toit à un autre, il se raccroche genre au dernier moment, etc. Et en plus, et après il continue sa poursuite sur cette scène-là qui est dans le film, il s'est pété la cheville à ce moment-là. Les docteurs lui ont dit, ah bah merde, malheureusement du coup là ça va être enfin 6 mois pour se remettre dans la cheville. Et en gros, apparemment 2 semaines après, le mec était de retour sur le plateau et il continue à cavaler. C'est.
Mais j'ai entendu dire, et je pense que c'est peut-être un mytho, mais qu'en réalité c'était Jackie Chan avec un costume de Tom Cruise qui faisait les cascades.
Mais les. Ah ouais. Ah oui, c'est ça. Ah ouais. C'est cool que tu. Ouais, que tu y penses. Parce que c'est vrai que on rend honneur à Tom Cruise, mais le OG de
Ouais.
la cascade, le gangster originel, c'est Jackie Chan qui
Jackie
faisait
Chan,
tout
ouais.
lui-même, qui. Tout son savoir-faire, il l'a aussi exporté aux États-Unis, mais c'est vraiment lui qui, dans
Bien
ses
sûr.
films, il mettait un point d'honneur à faire, tu sais, des plans. T'as pas besoin de faire un multicut à la Taken pour, en gros, les gens pigent rien, mais comme ça, bon, tu peux faire illusion que il se passe ce qui se passe et que l'acteur l'a fait lui-même. Non, Jackie Chan, il refaisait les prises. Je crois que c'était avec un gars qui était aussi un artiste martial américain. J'ai oublié Jet quelque chose. Benny the Jet
Benny
Urquidez.
the Jet,
Et
ouais.
en gros, il
Champion
y a
du
des
monde de
scènes
kickboxing,
absolument
Benny.
légendes aussi. Et en
Ouais.
gros, il y a des scènes que faisait Jackie Chan. Il fallait que la choré soit parfaite. Et comme il n'y avait pas de cut entre les scènes, c'était presque un plan fixe. Il fallait que la choré soit parfaite. Et il refaisait les scènes 50 fois s'il le fallait pour que tout soit parfait sans qu'il y ait besoin de faire de cut. Parce que donc, forcément,
Et il s'en
l'effet est
prenait
bien
dans la
meilleur à
gueule.
l'écran
Et il
ensuite.
s'en prenait dans la gueule des vrais, des fois. Parce que si
Il
c'est
s'est
pas au
tout
millimètre,
cassé, Jackie Chan.
ouais.
Légende.
Messieurs, je pense
Oui.
que là-dessus, on tient notre mot de la fin avec cette énième petite digression.
Désolé, bonne fête des papas.
Ouais,
Mais
grave.
oui. Mais,
Mais oui,
mais
grave.
c'est quoi ces petits trophées derrière toi? C'est quoi celui où on dirait qu'il y a un mec qui fait
Ha!
caca?
Allez,
Oh!
time to flex,
Alors,
Guillaume, time to flex.
time to flex. Mais alors là, ces deux-là, c'est un petit peu de natation. Tout ça. Oh, waouh! Plus tout ça, c'est du judo, messieurs. Voilà.
Waouh, putain. Mais l'autre, ton truc de natation, il faut qu'il change le petit personne, la petite personne, parce que là,
Ouais,
ça fait
j'avoue, c'est
plus un mec qui
tendancieux.
fait caca. Ça fait
On se pose
champion du
des
monde.
questions, effectivement.
Champion du monde de caca, là, quand
Ça, c'est un truc qui est tellement
même.
masculin de se dire que tu fais des caca stylés quand même. Mais
Ouais,
on est
grave.
tous passés par
Je
là,
te
je
jure. Ça
pense.
fait plein de.
Non mais
Eh,
gros, fais pas ta sucrée, c'est
ça
vrai.
fait trop penser à Meet the Fuckers. Vous avez déjà vu ce film-là où, tu
Oh, avec
sais,
De Niro.
De Niro il arrive
Oui.
et l'autre il a un trophée pour la 7e place, un ruban de la 7e
Oui, c'est vrai.
place.
Putain, my
Bisous
God.
les gars, passez un
Eh oui,
super dimanche soir, bonne fête des
bonne
papas.
soirée.
À,
Yes.
on
Ouais.
se
À
parle
toutes,
dans
tout
la
le monde.
semaine et la semaine prochaine, les gars, merci beaucoup.
À toutes.
Allez, salut les
Salut.
gars, bye. Ah, c'était tellement fun, les frères. C'était tellement fun. Merci d'être venus aussi nombreux dans l'émission, les gars. On essaye de rendre cette émission fun. Et j'espère que vous passez un bon moment, que vous y connaissiez ou pas en MMA.
Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sueur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous, vous tapez La Sueur sur toutes les plateformes ou sur les réseaux sociaux, vous nous trouverez. Et là, vous nous écoutez très certainement en audio. On est aussi en vidéo sur YouTube, mais également sur Snapchat. Là encore, vous tapez La Sueur et on sera là. Merci de votre fidélité et à très vite pour de nouvelles aventures.